la période que j'évoquais à l'instant, hein, le socialisme, l'anarcho-syndicalisme, les différentes sortes de socialisme et l'émergence d'un pôle socialiste républicain au début du XXe siècle, et les débats, les expériences ouvrières dans la même période, donc autour de la figure de Jean Jaurès et autour de la problématique des bourses du travail. Et puis nous nous porterons quelque temps après, hein, au moment du Front populaire, où l'on sait que la question de la révolution et la question de la défense de la République se sont entrecroisées, et de nouveau, hein, s'est posée la question de la place relative du suffrage universel et de la transformation sociale à partir de l'expérience ouvrière. Donc voilà, donc nous accueillons cette table ronde a été préparée par David Hamelin, que nous remercions, et donc vont intervenir dans cette discussion donc sur Jean Jaurès et les syndicalistes, dont il nous précisera de quelle sorte ils étaient de manière majoritaire ou dans leurs différentes composantes à l'époque. Donc Gilles Candard, qui est président de la Société d'études jaurésiennes et professeur de lycée. Sur les bourses du travail, donc un outil au service de la démocratie économique, donc David Hamelin, qui est doctorant en histoire à l'Université de Poitiers. Et sur la dynamique du Front populaire, ritualiser l'émotion antifasciste, Vincent Chambarlac, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Donc je leur donne la parole, on va enchaîner les trois communications et ensuite on aura un débat avec la salle. Donc Gilles Candard.
Eh bien, merci. On part sur l'idée qu'on parte chacun une 20 à 30 minutes.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. 25, ce serait parfait, mais il peut y avoir une marge.
Oui. Enfin, vous ferez passer un petit... quand je serai trop long.
En revanche, il faudra qu'on ne déborde pas trop, puisque un intervenant d'hier, au dernier moment, n'a pas pu être là, donc on le fera parler à la fin de la matinée, François Denord. Donc le programme de la journée va être particulièrement chargé.
Ah, d'accord.
Donc on va essayer de s'en tenir à ce qui est prévu.
D'accord.
12 heures.
Oui. Évidemment, je commence toujours par dire que je n'ai que 2-3 mots à dire. Oui, en général, il faut m'interrompre pour plus d'une heure et demie. C'est normal. Donc Jaurès et syndicaliste, c'est un sujet, disons, qui a été beaucoup travaillé dans les années 1960-1970. L'époque, disons, la grande époque de la revue Le Mouvement Social, c'est l'époque en l'histoire de, je dirais, Roland Trempé, avec sa thèse sur les mines de Carmaux, Madeleine Reberioux, la grande historienne spécialiste de Jaurès, Jacques Julliard, avec les bourses du travail déjà, le syndicalisme d'action directe des Peloutiers, Colette Chambellan, avec la figure de Monatte, Jean Métron lui-même, en dehors du dictionnaire. Je dirais que c'est un sujet qui fait penser beaucoup à cette époque. Et d'ailleurs, les principaux monuments, disons, historiographiques sur le sujet sont peut-être à la fois un volume d'anthologie qu'avait préparé Madeleine Reberioux sur Jaurès et la classe ouvrière, qui avait été publié dans la petite collection Maspero, donc en poche, largement diffusée. Et puis un colloque sur Jaurès et la classe ouvrière, qui s'était tenu à l'Assemblée nationale, un grand colloque auquel avaient participé un certain nombre d'universitaires. Mais dans la salle, je me souviens, à l'époque, il y avait des secrétaires généraux des confédérations syndicales de l'époque, des personnalités, disons, syndicales et politiques. Et j'évoque cela, ce n'est pas simplement par nostalgie, c'était simplement aussi pour me demander si aujourd'hui la même configuration se retrouverait, quoi. C'est peut-être pour noter un petit décalage. 40 ans après, je ne suis pas convaincu qu'on puisse tenir un grand colloque sur un sujet comme aujourd'hui et avoir, par exemple, les secrétaires généraux de la CGT ou de la CFDT ou un certain nombre, disons, d'hommes d'État des différents partis de gauche qui participeraient à ce colloque. Donc, pour les plus jeunes d'entre vous, Voilà, c'est pour dire aussi qu'il y a peut-être des choses qui ont changé dans le paysage intellectuel et politique du pays. Alors même si donc cette question peut sembler être une question très années 60-70, il a été travaillé depuis toujours sur les questions ouvrières et les rapports avec le socialisme de la Troisième République. Marie-France Brive avait travaillé sur la verrerie du Tarn. Anna Boscus, que je vais à la fois démarquer, reprendre et parfois, disons, nuancer, et qui est maître de conférence à Toulouse, le Mirail, a écrit l'article fondamental sur la question qui est Jean Jaurès, la CGT, le syndicalisme révolutionnaire et la question sociale, qui n'est pas facile à trouver parce qu'il faut le commander à l'Institut CGT d'histoire sociale de la région Midi-Pyrénées. Donc c'est justement pour voir si les libraires sont bons ou pas. Enfin, j'ai vu qu'il y avait au moins une belle librairie à Poitiers. Et vous faites l'essai, vous commandez l'ouvrage et vous voyez s'il arrive. Il y avait eu aussi une thèse Xiao Hong avec Roland Trempé sur Jaurès et le mouvement ouvrier, Jaurès et les grèves ouvrières. Là aussi, c'est un petit phénomène d'époque. Xiao Hong, qui était une ancienne garde rouge qui faisait ses études en France, s'intéresser à Jaurès et au socialisme de cette période, c'était sans doute une manière de sortir, disons, d'une formation marxiste-léniniste, maoïste, qui avait été la sienne en Chine populaire. Et elle est devenue aujourd'hui une grande spécialiste de la question de Taïwan et des rapports économiques dans l'Asie du Sud-Est. Donc elle travaille sur des problématiques entièrement différentes à l'École des hautes études et elle ne s'intéresse plus aux questions du mouvement ouvrier. Mais sa thèse n'a jamais été éditée. Je ne sais pas si elle le sera un jour. Il faudrait peut-être qu'on arrive à la mettre sur un site informatique. Mais elle en avait tiré un article dans un vieux bulletin de la Société d'études jaurésiennes, article que j'ai déposé sur la borne d'entrée dans le hall. Donc vous pouvez vous servir et comme ça avoir un autre point de vue que le mien déjà sur la question. Donc ça fera deux topos pour le prix d'un sur Jaurès et les syndicalistes. Donc, quelques travaux ces dernières années, mais il faut bien dire hein, que si je regarde l'historiographie de Jaurès et du socialisme de la Troisième République, depuis les années 80, c'est plus le Jaurès intellectuel, le Jaurès humaniste, le Jaurès Dreyfusard ou le Jaurès politique qui ont été travaillés, et c'est aussi disons un signe de l'époque à prendre en compte. Donc là, il y a une invitation, je ne sais pas si c'est le contexte particulier ou la raison d'être justement, de raison d'agir, qui fait que nous revisitons un point qui avait été plutôt travaillé dans la génération précédente. Alors Jaurès et les syndicalistes, je dirais que la première chose à voir, semble-t-il, c'est que Jaurès a rencontré le monde ouvrier, et là je fais exprès de me débarquer de mon ami Anna Boscus qui parle de la rencontre de la classe ouvrière par Jaurès. Moi je dirais pas classe ouvrière parce qu'au début Jaurès il rencontre pas une classe, hein, il rencontre des ouvriers, et d'ailleurs il ne pose pas cette rencontre en termes d'analyse marxiste puisqu'il n'a pas encore du Marx et qu'il ne pense pas en termes marxistes les rapports sociaux qu'il peut être amené à justement à rencontrer. Jaurès rencontre des ouvriers avant d'être lui-même socialiste. Il les rencontre pas tout de suite, hein. Lui-même le dira assez souvent. Jaurès, au fond, il appartient à ce qu'on pourrait qualifier de bourgeoisie pauvre et provinciale. La notion de bourgeoisie pauvre peut paraître sociologiquement hardie, peut-être. Mais je crois qu'elle a une réalité historique, en tout cas au moins au XIXe siècle. Il est d'une famille qui reçoit une éducation bourgeoise, qui a des relations sociales dans un milieu relativement même élevé. Hein. Il y a donc un capital symbolique. Sa famille est apparentée à des officiers généraux, deux cousins amiraux. Il y a des industriels dans la famille, donc ils font partie des familles bourgeoises de Castres et de la région, même si les parents de Jaurès, par eux-mêmes, n'ont pas le sou et qui sont obligés de se débrouiller pour élever chichement leurs enfants. Enfin, C'est, disons, justement, une situation intéressante pour Jaurès d'être à l'intersection, je dirais, de deux mondes, à la fois un monde bourgeois et sans en avoir les revenus qui permet de tenir tout à fait son rang. Jaurès, il semblerait que la première fois qu'il est vraiment, enfin, la première trace qu'on ait d'une rencontre d'ouvriers, eh bien, je dirais que c'est dans le cadre de cette France de la Troisième République, ce n'est pas à Castres, parce que justement les milieux sociaux ne se rencontrent pas forcément. Lui, il vit dans une petite ferme, dans la partie rurale de la ville, il va au collège, il dira qu'il a appris bien plus tard que derrière certains murs, il y avait des ouvrières du textile qui vivaient dans des conditions absolument, enfin, très, 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 très éprouvantes, très dures, mais qui n'en avaient pas l'idée par lui-même. Ça ne faisait pas partie des gens qu'il pouvait voir, qu'il pouvait fréquenter. Donc, c'est les premiers ouvriers qu'il rencontre, c'est lorsqu'il va à Paris pour être élève de prépa, puis ensuite l'élève de l'école normale supérieure. Et c'est en chemin de fer, c'est l'avantage des voyages, c'est un certain brassage social, puisqu'il est dans un compartiment avec des ouvriers qui vont visiter l'exposition universelle de 1878 et qui se demandent si, aux premières cheminées d'usine qu'ils rencontrent, s'il s'agit de la colonne de la Bastille, ou pas. Donc il y a quelques notations un peu, je dirais, amusées et sympathiques de Jaurès à ce moment-là. Mais bon, il est bien certain que dans sa vie d'étudiant, là aussi il reviendra, il lit beaucoup de philosophes, de pères de l'Église, il rencontre le monde de l'esprit, mais il n'y a pas l'occasion de rencontrer des ouvriers. Il faut dire qu'à l'époque, la vie des étudiantines est beaucoup plus contrainte qu'aujourd'hui, surtout quand on est en classe préparatoire ou à l'école normale supérieure de la fin du 19e siècle. Il y a une demi-journée de liberté par semaine. On en profite pour aller au Louvre ou pour aller écouter les hommes politiques à la Chambre des députés. On ne rencontre pas d'ouvriers. Donc les premiers ouvriers que Jaurès va rencontrer, c'est lorsqu'il arrive à la vie adulte, lorsqu'il est nommé professeur au lycée d'Albi, pas tellement parmi ses élèves, puisque les élèves qui vont au lycée appartiennent toujours à des familles, je dirais, bourgeoises, y compris de cette bourgeoisie pauvre que j'évoquais tout à l'heure, mais disons que c'est la population qui peut avoir accès au lycée. Les premiers ouvriers que Jaurès va vraiment rencontrer, c'est dans le cadre de son activité publique, puisqu'il a demandé à être nommé au lycée d'Albi, bien que reçu brillamment troisième à l'agrégation de philosophie et lormalien, certainement pour se lancer dans la vie politique, pour être élu assez rapidement, et il parvient effectivement à être député dès l'âge de 25 ans du Tarn. Et en tant que député du Tarn, en tant que député républicain du Tarn, il a évidemment rencontré des ouvriers, puisque le suffrage universel existe, les ouvriers votent, et Jaurès les rencontre avec comme problématique que ces ouvriers doivent faire partie de la majorité des républicaines, des citoyens qui doivent être gagnés à la République. Donc c'est bien une vision républicaine qui a vision de Jaurès au départ. Comment ranger les ouvriers dans le camp de la Révolution, contre le camp de la réaction, de la conservation, de l'Église? C'est dans ces termes qu'à la fin du XIXe siècle, Jaurès analyse toujours la situation politique et sociale du pays. Ceux qui vont de plus loin pour parler des droits spécifiques du monde ouvrier, c'est la gauche du camp républicain. Donc ce sont les radicaux, ce sont des gens comme Clémenceau qui parle de la classe ouvrière comme d'un quatrième état. Il y avait le tiers état qui a fait la Révolution française. Eh bien, l'expression que popularise Clémenceau à cette époque-là, dans les années 1880, c'est de dire il existe aujourd'hui un quatrième état, et de même que le tiers état demandait à ce que ses droits soient reconnus à la fin du XVIIIe siècle, eh bien aujourd'hui, à la fin du XIXe siècle, le quatrième état se lève et réclame que ses droits soient reconnus. Mais c'est bien dans ces termes que les plus à gauche et républicains posent le problème, et Jaurès ne va peut-être pas aussi loin que cela, même s'il a de la sympathie parfois pour les aspirations sociales des radicaux. Lui-même n'est pas radical, Il est simplement républicain et soucieux, disons, d'apporter des réponses aux problèmes particuliers que peuvent se poser les milieux ouvriers. Il est dans la logique du grand homme de l'époque, hein, de Gambetta, qui a dit « il n'y a pas une question sociale, il y a des questions sociales particulières qu'il faut résoudre les unes après les autres, patiemment, les étudiants ». Je dirais que c'est ce que fait Jaurès. C'est ce que fait Jaurès et c'est ce qui lui permet de rencontrer concrètement des ouvriers, donc les ouvriers du textile à Castres. Comme il y avait quelques industriels dans sa famille, c'était plus simple. Il y a quelques métallurgistes à Saint-Juéry. Il y a des ouvriers chapeliers aussi, qui sont une profession organisé depuis longtemps. Je crois que les chapeliers vont être les premiers à avoir une fédération syndicale au niveau national. Et il rencontre aussi les mineurs, qui sont les deuxièmes, je crois, à avoir une fédération syndicale. Il assiste au congrès de la Fédération nationale syndicale des mineurs, qui se tient à Saint-Étienne en janvier 1886. Et il essaye de porter un certain nombre de revendications concrètes de ces ouvriers comme députés républicains. Dans son premier mandat de député républicain, on va le voir très actif sur la question des revendications des mineurs, notamment sur la question de la sécurité, donc des conditions de travail, et de la création de délégués mineurs à la sécurité qui soient indépendants de la direction et qui puissent intervenir dans les conditions de travail. Il est en contact avec la Fédération nationale des mineurs, donc je vous ai dit, surtout ceux de Saint-Étienne, mais dans son département qu'il a élu député, c'est évidemment les mineurs de Carmaux avec lesquels il a les premiers contacts. Alors il va falloir être patient, hein, la création des délégués à la mineur se fera sur de nombreuses années, parce qu'on peut réunir éventuellement une majorité à la Chambre, mais c'est beaucoup plus difficile de passer devant le Sénat, et à l'époque le Sénat a autant de pouvoir que la Chambre, mais disons, c'est à cela que s'attache Jaurès. De même que le deuxième sujet sur lequel on le voit s'avancer, c'est la question des retraites ouvrières. La question des retraites ouvrières qui est une question dont on commence à débattre dans les milieux républicains. La première proposition de loi pour créer des retraites ouvrières, elle est contemporaine de la victoire des républicains en politique. En 1879, les républicains l'emportent définitivement. Ils ont la présidence de la République, la Chambre des députés, le Sénat, et bien un des symboles du camp républicain, le maçon de la Creuse, Martin Ladeau. Martin Ladeau est le premier à déposer une proposition de loi pour des retraites ouvrières. La première mesure qui sera prise pour des retraites ouvrières, ça sera en 1910. Donc vous voyez qu'on est dans une république où on prend beaucoup de temps pour voir le début du commencement de l'ébauche d'une solution. Mais en 1886, Jaurès, comme député républicain, a fait une première proposition de retraites ouvrières. Et donc, je dirais que d'une certaine manière, c'est Jaurès, il a ce contact, vous voyez, de députés républicains porteurs de revendications ouvrières comme élus républicains. Et ça va peut-être être le premier élément qui va faire évoluer Jaurès, c'est qu'il se rend compte que c'est finalement beaucoup plus difficile qu'il le croyait de faire passer ses revendications concrètes, y compris auprès de ses amis républicains. Il doit batailler longuement, ce n'est jamais le moment, ça coûte cher, ça pose problème. Et je dirais qu'il y a une déception républicaine, qu'on rencontre d'ailleurs dans l'électorat qui a été devenu républicain à la fin du XIXe siècle, qui va expliquer en partie le boulangisme et d'autres crises de la République, mais qui explique aussi l'évolution personnelle de Jaurès, qui est déçu par le manque d'ardeur de ses amis à faire passer des réformes sociales. Lui-même, d'ailleurs, se rend compte du problème, puisqu'aux élections de 1889, il est battu à Castres, ça c'est un petit peu normal, mais il analyse dans la dépêche grand journal de la région le fait que dans la circonscription la plus ouvrière du Tarn, celle de Carmaux, eh bien, ce n'est pas le candidat républicain qui passe, qui est un brave notaire, apparenté d'ailleurs à Madame Jaurès, c'est le candidat patron de la mine de Carmaux, le marquis de Solages, gendre du baron Rey, conservateur, royaliste, catholique, c'est lui qui est élu député. Et il est élu député non pas seulement par les campagnes, mais parce que massivement, les mineurs de Carmaux ont voté pour le marquis de Solages. Et les premières rencontres de Jaurès avec les mineurs de Carmaux se passent mal. Les mineurs de Carmaux, le Louspi, même qui lui crache dessus, etc. Et Jaurès analyse dans la dépêche, enfin essaie d'analyser les raisons pour lesquelles les voies ouvrières ont manqué au camp républicain et se sont portées sur le patron lui-même. Ce n'est pas tellement au début, vous voyez, le fait qu'il soit patron qui le choque, c'est le fait qu'il soit, parce que des patrons, Jaurès aussi en connaît, ils sont aussi dans le camp républicain. Ceux de Mazamé, par exemple, sont des patrons protestants républicains, ce sont ses amis politiques. Mais là, c'est un patron conservateur, royaliste, et c'est évidemment ce qui pose problème à Jaurès, et il essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que les mineurs ont voté pour ce patron royaliste, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils arrêtent de voter pour le patron royaliste, et qu'ils votent à nouveau républicain. Et donc, c'est le début d'une évolution qui va peser sur Jaurès. Le deuxième temps de cette évolution, c'est lorsque Jaurès battu devient maire adjoint, n'est plus député, donc il reprend son poste à la faculté, et il devient maire adjoint de Toulouse. Alors, maire adjoint de Toulouse dans une municipalité radicale, il a du temps libre, il s'occupe surtout des questions scolaires, il avance ses thèses de philosophie, il soutient même ses thèses de philosophie, et là, il y a toute une polémique sous-jacente dans le milieu des spécialistes de Jaurès et des historiens pour savoir qu'est-ce qui a le plus compté pour l'adhésion de Jaurès au socialisme. Et je dirais que dans cette polémique traditionnelle, qui elle aussi remonte au moins aux années 20, hein, puis qui rejoue dans les années 50-60, enfin, peu importe, certains mettent beaucoup en avant la dimension intellectuelle et le rôle de Lucien R., le philosophe, bibliothécaire de l'école de normale supérieure, pour expliquer la conversion de Jaurès au socialisme. D'autres parlent de la lecture, un petit peu concomitante d'ailleurs, des œuvres de Karl Marx, donc un chemin, je dirais, très intellectuel. D'autres, au contraire, ça c'était plutôt la tradition marxiste-léniniste, disent que c'est au contact de la classe ouvrière que Jaurès va vers le socialisme. Vous voyez bien le changement d'atmosphère. Moi, évidemment, je vous propose une synthèse, hein, c'est mon rôle jaurésien. Je dis que c'est un peu tout à la fois, quoi, hein, bon, parce que difficile de savoir chez un homme si ce qui compte le plus, c'est ce qu'il lit, les amis avec lesquels il discute, ou son expérience dans la vie. Hein. Jaurès, il est comme nous tous sur ce plan-là, même si nous sommes moins forts que lui. À la fois, il travaille, il mange, il réfléchit. Donc, effectivement, il rencontre Lucien R., il lit Marx, mais il rencontre aussi des ouvriers à Toulouse. Il rencontre des socialistes, certains socialistes qui font partie du conseil municipal, qui sont dans une espèce de... qui font partie de la majorité qui a permis à la liste républicaine de passer, mais qui sont critiques à l'égard de cette majorité. Hein, c'est un petit groupe blanquiste. D'autres qui ne sont pas dans le conseil municipal, mais qui animent un petit groupe dans la ville, ce sont les guédistes. Les blanquistes, ils sont derrière un typographe. Les blanquistes, les guédistes, eux, ils sont derrière un docteur en médecine. Il y a aussi un jeune employé de commerce qui va au cours de Jaurès à la fac pendant ce temps-là. Et Jaurès les rencontre parce que c'est le sujet, disons, des bourses du travail. En tant que maire adjoint, il participe aux travaux qui permettent de faire d'inaugurer une bourse du travail à Toulouse. C'est en général un des éléments de négociation des ouvriers socialistes dans la fin du XIXe siècle avec le camp républicain. Ils disent, vous voulez qu'on vous soutienne électoralement, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est une bourse du travail. Donc, je ne développe pas, hein. C'est, disons, souvent l'élément central de la négociation pour faire partie de la majorité républicaine, qu'elle soit critique ou pas critique, avec des sièges au Conseil ou pas des sièges au Conseil, c'est ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vous avais prévenu, hein, qu'il fallait se méfier de moi. Je l'avais dit gentiment. Mais vous avez bien raison. Donc, ça, c'est le premier contact qui est décisif. Je dis ça parce que comme ça me permet d'expliquer pourquoi je vais être beaucoup plus rapide pour la suite. Et à mon avis, où des liens forts vont créer. Ça vous permet de comprendre pourquoi Jaurès devient socialiste en le déclarant pleinement, parce qu'il soutient à fond la grève des mineurs de Carmaux de 1892. Parce que cette grève des mineurs, on peut la voir de deux manières, à la fois du côté des mineurs, à la fois du côté de la classe, et à la fois du côté politique, du côté des citoyens. Les mineurs de Carmaux se mettent en grève pour défendre leur leader, Calvignac, à la fois leader du groupe socialiste, syndicaliste et coopératif de la région, qui a été élu maire de Carmaux, ce que n'accepte pas le député patron Calvignac et sa famille. Vous voyez bien, donc on est vraiment dans une logique, on pourrait dire, un peu classe contre classe. Les absences nécessaires sont refusées au leader maire, qui se trouve donc licencié. Les ouvriers se mettent en grève, et donc c'est à la fois une grève, on pourrait dire, de classe, mais c'est aussi une grève politique, parce que ça pose la question du respect du suffrage universel. Et dans le domaine du suffrage universel, eh bien, les républicains sont très ennuyés, parce qu'ils ont une sympathie, un peu forcée pour Calvignac contre le patron député, qui est aussi un adversaire politique. Ça vous explique peut-être pourquoi il est plus facile de soutenir la grève des mineurs de Carmaux que dans d'autres conflits où le patron sera un républicain. Jaurès soutient à fond les mineurs de Carmaux qui finissent par l'emporter, ce qui est un petit peu normal, parce que le gouvernement est d'une certaine manière avec eux. Et de dépit, le patron donne sa démission de député, ce qui permet à Jaurès d'être choisi après comme candidat d'union des différents groupes socialistes, parce qu'il y avait des disputes entre Verrier, mineurs, etc. Et donc Jaurès devient pleinement député socialiste de Carmaux à ce moment-là. Le deuxième temps, ce qui doit être rapide, c'est le Jaurès, leader de grève et leader ouvrier des années 1890. Jaurès, à l'époque, est à la fois le porte-parole, je dirais, des mineurs, des verriers, disons des ouvriers du Tarn, qu'il représente à la Chambre, et il est le spécialiste de le relais de ces ouvriers au niveau, disons, des pouvoirs publics, au niveau de l'État. Donc, il va avoir des liens surtout avec les ouvriers qui regardent du côté de l'État, parce qu'ils en attendent le vote d'une législation sociale, d'une législation qui soit favorable aux ouvriers, soit sur les conditions de travail, soit sur des premières dispositions en faveur de la prévention des risques de la maladie, de l'accident ou de la vieillesse des retraites ouvrières. Donc c'est un Jaurès leader ouvrier, c'est un Jaurès leader de grève, à un moment où ne sont pas encore formés le Parti socialiste ou les syndicats qui émergent à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais ce Jaurès des années 90, c'est une période où la CGT ne se forme qu'en 95 et longtemps encore dans les limbes, et où se constituent justement les bourses du travail dont on va parler. Les organisations ouvrières ne sont pas encore constituées. Donc Jaurès, lui, qui est un homme libre, un député, il peut apparaître à la fois comme le député socialiste et la référence des ouvriers sur le plan politique, syndical et coopératif. D'autant que, par exemple, dans son Tarn, c'est simple, Calvignac qui dirige une fédération qui est à la fois politique, syndicale et coopérative. Et dans le Tarn, ça va durer jusqu'en 1907. Ce ne sera qu'un an après la fameuse motion d'Amiens, qu'on appellera plus tard la charte d'Amiens, que la fédération du Tarn se décidera à diviser ce qui est politique de ce qui est syndical et de ce qui est coopératif. Donc une grande image de Jaurès qui va évidemment s'effriter avec les difficultés de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, lorsque à la fois ces organisations se constituent, lorsque à la fois les partis politiques se constituent, mais aussi les syndicats se constituent, et, disons, dans la crise de l'affaire Dreyfus, puisque les syndicats vont se constituer sur une base très syndicaliste, révolutionnaire, très critique à l'égard de l'État, alors que Jaurès est habitué à parler avec des ouvriers qui regardent du côté de l'État et qui sont demandeurs d'une intervention de l'État, et que Jaurès, pendant cette période, intervient beaucoup pour avoir une transformation des relations sociales qui passe par l'État. Il soutient l'expérience militante de participation ministérielle, sous Vadec Rousseau. Il soutient le gouvernement Combes de Bloc des Gauches entre 1902 et 1905. Et cette tentative ministérielle, c'est une tentative de réforme sociale par l'État, avec par exemple la loi sur le repos obligatoire le dimanche, avec des premières mesures en faveur pour les indigents. Mais c'est aussi une solution par l'État qui peuvent poser problème aux syndicalistes, puisque c'est aussi pour réguler les relations sociales entre syndicalistes et patronat, une tentative d'avoir une négociation obligée dans le, en cas de conflit du travail, avec un arbitrage obligatoire, donc une pacification des relations sociales, qui passerait par la création de l'élection de délégués ouvriers dans les entreprises. Ce que refusent les syndicalistes, parce qu'ils y voient évidemment une concurrence. Donc, on a trouvé depuis des solutions qui sont un peu une formule de compromis, avec des délégués qui sont élus, mais qui sont élus sur des listes syndicales. À l'époque, dans les projets Mirand ou du Bloc des Gauches, ces premiers projets d'organisation, de régulation des relations dans le monde du travail sont très contestés à la fois du côté, je dirais, sur la gauche, du côté des syndicalistes de la CGT, et sur la droite, du côté du patronat qui réagit en créant d'ailleurs le comité des forges, l'ancêtre de l'Union des industries métallurgiques et minières, et d'autres problèmes. Donc on a un moment là où Jaurès va avoir une orientation du côté de l'État, du parlementarisme, qui va être très, 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 très contestée. Il va, mais je n'ai pas le temps d'en parler, on en reviendra peut-être dans la troisième partie, essayer de dépasser ces contradictions, justement en allant du côté de la... lorsque le Parti Socialiste Unifié va être constitué, en essayant d'entretenir un dialogue avec la CGT et avec les coopératives. Beaucoup de disputes, beaucoup d'engueulades, mais Jaurès, qui est dans une stratégie surtout, disons, d'essayer de gérer au mieux les contradictions, une stratégie internationale, contre le danger de guerre, a comme moyen pour gérer les contradictions son organe de presse, le média. C'est pour ça qu'il tient beaucoup à avoir l'Humanité, le quotidien, qui ne sera jamais le quotidien du Parti Socialiste, mais toujours le quotidien de Jaurès, il se débrouillera pour, dans lequel il impose une tribune libre qui est ouverte aux syndicalistes révolutionnaires de la CGT, où on s'engueule, mais où le dialogue est maintenu. Et je dirais que tout son jeu va être d'essayer de maintenir un espace, disons, de dialogue et de négociation pour avancer à la fois les réformes sociales par la voie parlementaire et, disons, une solidarité avec les grèves ouvrières contre la logique, parfois, de répression qui est menée par des gouvernements républicains, pourtant, y compris par des gouvernements qui sont situés à gauche. D'où toute une contradiction que Jaurès va essayer de faire vivre. D'où, et je n'en ai vraiment terminé, ce n'est pas des fausses promesses, une polémique, je vous signale que c'est facile à avoir, on s'était enguirlandé avec Manuel Valls à propos du débat Jaurès-Clemenceau de 1906. Clemenceau, c'est la gauche, il est au pouvoir, la gauche a gagné, il y a un programme de gauche, mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'il y ait un mouvement social, hein? Jaurès et Clemenceau ne voient pas les choses de la même manière, je dirais qu'avec Manuel Valls, on ne les voyait pas non plus de la même manière, donc on s'est un peu insulté, et puis après, on a fait un petit choix thématique du discours de Jaurès et de Clemenceau présenté ensemble. Donc voilà, Jaurès essaiera de gérer les contradictions jusqu'en 1914. Aura-t-il réussi pleinement? Sans doute pas, mais en partie, c'est ce qu'il essaiera de faire.
Merci. C'est bien à Jaurès que nous avons décidé de donner la parole ce matin, pas à Clemenceau. Je donne tout de suite la parole à David Amelin sur les causes du travail.
Ça fonctionne, oui. Bien, merci de me laisser la parole. Je vais essayer de tenir dans le temps, ce qui, bon, forme limitée également. Mais oui, j'ai un censeur à côté de moi, je suis rassuré.
C'est pas moi qui...
Oui, oui. Donc, effectivement, c'est très intéressant d'avoir démarré par Jaurès, même si je n'en parlerai pas vraiment là, mais il y a quand même beaucoup de choses qui font sens au regard des bourses du travail quand on voit le rôle et l'importance de Jaurès dans les débats, dans l'action politique et sociale, on va dire, ou syndicale presque. Au préalable, c'est vrai que je ne parlerai pas forcément, parce que du coup, c'est un de mes objectifs ici, je ne parlerai pas du syndicalisme révolutionnaire en tant que tel, parce que la confusion peut être faite autour des bourses du travail, puisque justement, les bourses du travail sont des organismes qui vont bien au-delà d'une seule famille politique, une seule sensibilité, et on retrouvera beaucoup de militants socialistes qui, jaurésiens, qui se retrouveront, qui militeront, qui seront secrétaires, de bourses du travail, un peu partout en France, d'ailleurs. Alors, les bourses du travail, c'est un objet un peu spécifique, puisque c'est à la fois un objet familier, puisque dans les rues, si on prend, par exemple, pour ceux qui connaissent Poitiers, à quelques centaines de mètres d'ici, rue Arsène-Aurillard, il y a une plaque en bois témoignant d'un passé d'un passé peut-être studieux, je ne sais pas, mais en tout cas d'un passé sénégal où, en fait, on figure la mention Bourse du Travail. Ce sont des choses qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes de France, hein, où, en fait, les bourses du travail sont aujourd'hui des locaux, hein, où on retrouve des syndicats de salariés, au pluriel, hein, c'est les syndicats type CGT, CGTFO, CFDT, CFTC, pour, etc., etc. Et il est vrai que les bourses du travail peuvent encore aujourd'hui avoir une, comment dirais-je, une importance symbolique très forte. Alors, on peut reprendre des faits d'actualité, alors heureux ou malheureux. Hein, on peut se rappeler, par exemple, d'une expulsion de sans-papiers de la Bourse du Travail de Paris il y a quelques années, qui avait heurté une partie de sensibilité militante, peut-être l'opinion publique. Mais il est vrai qu'il y avait une forme, en termes d'image, une dichotomie entre ce lieu de Bourse du Travail, qui est un lieu où on accueille, et puis un lieu qui devient un lieu excluant. Dans une autre ville, Saint-Étienne, qui est une ville au passé ouvrier certain, peut-être connaissez-vous cette ville, on a une bourse du travail titanesque, gigantesque, qu'on appelle communément là-bas le palais du travail, tant son architecture, qui ressemble à un théâtre, hein, et qui a été construit à cette époque un petit peu dans cet esprit-là, une architecture très spécifique, impressionnante, très richement décorée, où sont inscrits dans les murs, notamment des choses ayant trait, je dirais, à la sociale, au mouvement syndicaliste, mais aussi des éléments, des symboles très républicains. Et justement, les bourses du travail, cette bourse du travail-là, agrègent des choses qui peuvent apparaître opposées ou en tout cas conflictuelles au tournant des 19e et 20e siècles. Autour des bourses du travail, il y a aujourd'hui, de manière assez étonnante, une petite dynamique et qui mérite quand même d'être notée. Parce que les bourses du travail n'ont pas, j'y reviendrai, n'ont pas vraiment intéressé les chercheurs, et même encore aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez marginal, alors que en histoire sociale, le syndicalisme a été particulièrement travaillé, la CGT notamment, la Belle Époque aussi, mais dans les faits, les bourses du travail en tant qu'objet spécifique n'ont pas été vraiment travaillées. Mais du côté, on va dire, citoyen, aujourd'hui, on a des signaux assez étonnants. Alors, je vais donner quelques exemples comme cela, peut-être certains, encore une fois, parce que c'est vos régions d'origine ou tout simplement parce que vous habitez dans ce département. Par exemple, à Châtellerault a été créée à l'initiative de l'Union locale CGT, une association pour célébrer le centenaire de la Bourse du Travail de la ville, qui est une association qui est censée porter un certain nombre d'initiatives valorisant le lieu. À Troyes, dans une autre ville, sinistrée en signe ville avec une forte, enfin une ville avec une activité textile très importante, aujourd'hui largement sinistrée, parce que le maire la ville souhaitait exclure, en tout cas faire en sorte que les syndicats déménagent du lieu pour des choses un peu moins intéressantes, des syndicats mais aussi des citoyens, des habitants du quartier ont créé une association qui s'appelle Bourse du Travail Mémoire Vivante, justement pour valoriser ce passé, pour faire en sorte que ce lieu-là ne soit pas détruit, ne soit pas détourné de sa fonction originelle. Et ce qui a amené, de manière un peu, à la manière d'éducation populaire, un travail sur l'histoire du lieu, et donc une forme de réappropriation par des contemporains de ces lieux un peu oubliés. On a tout un tas d'autres exemples, à Saint-Quentin, à Cannes, ou encore au Châteauroux, où en fait, tout souvent, parce que les maires souhaitent qu'on soit diminuer les subventions, soit faire déménager les syndicats, eh bien, une mobilisation en ce sens. On a également, encore du côté de la CGT, de l'Institut d'Histoire Sociale CGT, on a eu récemment une histoire plutôt bien faite, hein, à destination des militants, des bourses du travail, réalisées par André Naritsens, qui est un des promoteurs de cet Institut d'Histoire Sociale. Mais on a également la reparution d'ouvrages de Fernand Peloutier. Hein, je ne m'étendrai pas trop sur le personnage ici, sur l'histoire de Fernand Peloutier qui a écrit une histoire des bourses du travail et qui a été réédité par le Centre d'histoire du travail donc au début des années 2000. Donc une petite activité autour de cet objet qui n'est pas sans interroger finalement le contemporain, parce qu'en fait on a oublié finalement ce qu'on faisait dans ces bourses du travail, en tout cas les contemporains l'ont un peu oublié, et en même temps savent que finalement ce qu'ils sont aujourd'hui, l'influence qu'ils peuvent avoir dans une ville, l'audience et en tout cas la visibilité est en partie liée à un passé un peu fumeux, un peu brumeux. Alors, les bourses du travail, on pourrait dire que c'est un objet à la fois fantasmé, mais surtout délaissé. Je l'ai dit, il y a excessivement peu de travaux universitaires sur ce sujet, et si peu de travaux qu'en dehors de deux ouvrages, il y a des articles, un certain nombre d'articles, mais en dehors de deux ouvrages qui sont un peu datés, un qui est paru en 1985 de Peter Schottler, un historien allemand qui a travaillé sur la question des bourses du travail, avec une option assez spécifique. Alors c'était encore un peu à la mode à l'époque de traiter des objets comme l'école, les partis politiques, les syndicats, comme étant des appareils idéologiques d'État. C'était des versions althusériennes ou gramsciennes de ces institutions. Mais quoi qu'il en soit, il a essayé de travailler cet objet, avec de fortes critiques à l'époque menées par Jacques Julliard. Hein. On entendra parler de ce personnage-là aussi qui a écrit beaucoup de choses autour de la figure de Peloutier, du syndicalisme d'action directe et incidemment des bourses du travail. Un autre ouvrage, c'est celui de Roland Trempé, qui est plutôt un ouvrage commémoratif, on va dire, hein, un bel ouvrage avec une belle iconographie, mais qui d'une certaine manière ne réinvente pas trop le sujet, hein. Enfin, essaye de rappeler le poids et l'importance de ces institutions-là, et en offrant un ouvrage assez chouette, hein, mais pas de renouvellement réel. Et il est vrai que il est assez étonnant. Alors, je ne peux pas m'étendre là dans le cadre de cette communication pour essayer d'expliquer pourquoi l'absence de travaux sur ces institutions. Il faut y voir, rapidement, hein, il est vrai, une concentration des historiens dits sociaux sur plutôt les grands événements, les grandes figures du syndicalisme. Alors évidemment, le Front populaire n'a pas été délaissé, les périodes de l'après-guerre ou les grands mouvements grévistes, ça c'est une certitude. Il y a aussi l'émiettement aujourd'hui de l'histoire sociale et puis l'effacement. Hein. C'est vrai que ça ne met les sociologues, heureusement, aujourd'hui, se rapprochent de ces objets-là, mais en définitive, les historiens sociaux commencent à se compter, pas sur les doigts de demain, mais sur le champ du syndicalisme, il y a vraiment de moins en moins de monde. Et aujourd'hui, les bourses du travail, on peut les croiser dans des travaux alors qui n'ont vraiment pas du tout pour centre cet objet-là, mais autour de l'histoire économique, autour aujourd'hui des questions ayant trait au marché du travail, au placement des travailleurs, autour de l'histoire de la formation des adultes. Hein. Effectivement, il y a eu un certain nombre de colloques ces derniers temps où on est obligé de rappeler l'existence de ces bourses et de leur apport. Je m'arrête là sur un peu le constat et cette longue introduction, mais c'est pour un peu placer le sujet où en fait on vit avec un grand vide. Donc je ne ferai pas, dans les quelques minutes qui me restent, je ne vais pas faire l'histoire et la synthèse de ce qui aurait dû être fait, mais j'aurais souhaité quand même revenir sur deux aspects, puisque les bourses du travail telles qu'on les conçoit schématiquement de 1887 à 1914, qui sont la trentaine d'années où les bourses du travail vont déployer un certain nombre d'activités, à la fois culturelles, à la fois économiques, sociales. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les bourses du travail ne sont pas une invention spécifique des militants ouvriers de la fin du 19e siècle. Il y a eu, au milieu du 19e siècle, des tentatives de construction d'un outil qu'on appelle bourse du travail, et notamment le promoteur, l'inventeur du concept, même si l'historiographie sur le sujet peut quelquefois amener à rechercher de manière un peu plus loin, enfin sur le 18e siècle notamment, quelques expériences, mais c'était un économiste libéral qui s'appelle Gustave de Molinari, qui au milieu du 19e, parce qu'il veut faciliter la liberté du travail, parce qu'il est très attentif à des évolutions technologiques que sont la télégraphie électrique et le développement du chemin de fer, se dit effectivement, aujourd'hui, on a un marché des produits et des capitaux, mais on n'a pas un marché du travail qui permet réellement la mobilité des salariés et qui facilite, qui met de l'huile dans les rouages, hein, schématiquement. Gustave Molinari est assez est connu puisqu'il a vécu il a vécu 92 ans, 93 ans. Il aura été contemporain également de la mise en place des bourses du travail par les syndicalistes de la CGT, enfin les syndicalistes d'abord puis ceux de la CGT à partir de 1895, et il s'en distancie. il va se distancier de ces initiatives, considérant qu'effectivement, on utilise les bourses du travail, pas à des fins de liberté de travail, liberté de marché, mais essentiellement pour des œuvres révolutionnaires et pas antisociales, mais anti-républicaines et surtout anti-capitalistes. Donc il va, enfin Molinari va essayer de développer son projet. Donc en quoi cela consiste? Sa bourse du travail, c'est faire en sorte que les offres de demande de travail puissent avoir un lieu puissent être vues, lues et comprises dans un lieu spécifique et qui correspondent à l'industrie du moment. Alors il se fixe. Cette rencontre de l'offre et de la demande permet de fixer une cote, à l'image des bourses classiques, et qui indique pour toute marchandise le cours actuel. Alors, dans son esprit, les bourses du travail ne sont pas simplement des bourses de valeur, telles que on peut les avoir dans les bourses pour les produits et les marchés, pour les produits, pardon. Elles ont aussi pour vocation de déplacer les hommes. Et donc, il échafaude tout un système théorique, mais qu'il va, je vais expliquer, qu'il va essayer de développer concrètement, où en fait, il imagine une bourse centrale avec des bourses annexes, une vingtaine dans son schéma, qui permettrait, grâce à la télégraphie électrique, de faire connaître les offres d'emploi d'un site géographique spécifique, annonce qui est connue, qui est diffusée après par la bourse centrale, et avec la télégraphie, on peut connaître sur un lieu, on va dire Saint-Étienne, pour reprendre cet exemple-là, ou Lyon, eh bien on pourra connaître spécifiquement le coût du travail et la manière dont l'ouvrier pourra se vendre et l'employeur acheter la force de travail de l'ouvrier. Donc il va développer ses projets, enfin il va essayer du moins, il va s'adresser au monde ouvrier, il va s'adresser au monde patronal, il va dans les deux cas de figure connaître un échec. Il va aussi s'adresser aux parlementaires, il y aura une loi en 1851, un projet de loi en tout cas, qui est discuté au Parlement. Bon, ce projet sera refusé puisqu'on considère que ça a plutôt une envergure communale. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, Molinari repart en Belgique et là, il met en place un journal où il va continuer inlassablement à essayer de développer cette idée et il y connaîtra un échec. Son journal dure 5 mois et ça s'arrête là. On a une autre tentative concomitante qui là est plutôt une version centralisée, étatiste avec des guillemets des bourses du travail qui est développée par un dénommé Adolphe Lelier qui lui ne pense pas en termes de libération du travail mais en termes d'organisation du travail à l'image des ateliers nationaux de Louis Blanc. Donc là aussi, dans son esprit, il faut pouvoir développer un organe de presse, il faut pouvoir développer une coordination interrégionale avec la création de bourses dans certaines localités. Et il s'agit pour lui d'avoir un système non pas sur le bon vouloir des employeurs ou des salariés, mais un système généraliste, un service public de l'emploi d'une certaine manière, où l'ensemble de la population ouvrière serait enregistrée. Et d'ailleurs, ils vantent même les mérites de ce type d'organisation sociale en cas de guerre. Parce que du coup, on aura vraiment on saura précisément où sont les effectifs ouvriers, ce qu'ils font, combien ils coûtent, etc. etc. Là aussi, échec. Mais là, un échec qui n'est pas tout à fait lié à la problématique de l'envergure locale, en tout cas du projet, mais parce que lui, il voyait aussi les bourses de travail comme des lieux de réunion ouvrière. Et dans un siècle comme le 19e, où on a très très peur de la collision, de la concentration ouvrière, eh bien le conseil général de la Seine qui examinait ce projet, sous la pression du préfet de la Seine, n'ira pas plus loin alors qu'il était engagé, ce conseil général était engagé dans la création d'une bourse du travail. Alors, deux échecs avec, vous le comprenez, une version plutôt libérale, une version plutôt, centrale, en tout cas républicaine du système des bourses du travail. Il va falloir attendre une trentaine d'années avant que le projet, les bourses du travail, l'idée va rester dans les mémoires, mais sans réel suivi. Et il faut la légalisation des syndicats en 1884 pour Foucault, le débat revienne par le prisme des militants de différentes sensibilités socialistes, hein, du coup. Et donc, à la faveur du développement des premiers syndicats, à la faveur aussi du développement de la Fédération nationale des syndicats et des groupes corporatifs qui est créé en 1886 à Lyon, qui est dirigé à cette époque par Jules Guesde, s'organise une forme de contre-modèle de cette fédération qu'on considère, qu'un certain nombre de militants socialistes considèrent comme soit peu fiable, en tout cas peu fréquentable, va se développer parallèlement les bourses du travail et très rapidement une fédération nationale des bourses du travail. Donc la première bourse du travail en tant que telle naît à Paris en 1887. Très rapidement, il va y avoir un essaimage sur le plan national, hein, avec, on peut citer un Nîmes en 1887, Marseille en 1888, Bordeaux, Montpellier en 1890, etc. etc. La Fédération des Bourses du Travail, elle, naît en 1892 à Saint-Étienne, et son premier secrétaire, c'est un dénommé Fernand Peloutier, qui va être à la fois, bien sûr, un promoteur, hein, il est la tête de cette fédération, mais aussi un théoricien, sauf qu'il ne va pas théoriser des choses qui n'existent pas, il va simplement mettre sur le papier et synthétiser ce qu'il voit de ce qui se pratique dans ces bourses, où on va décrire un certain nombre de services qu'on va retrouver dans différentes bourses, se structure. La Fédération des Bourses va, et la Fédération nationale des syndicats vont se rencontrer en 1895 et vont créer la CGT. La Fédération nationale des Bourses du Travail va rester quand même dans une forme de défiance vis-à-vis de la CGT, parce qu'elle est très, très à cheval sur son autonomie et l'autonomie des bourses du travail. Et il faut attendre la mort de Fernand Peloutier pour que la Fédération des Bourses intègre pleinement, hein, donc en 1902, la CGT et participe pleinement à l'activité de cette confédération syndicale. Donc le développement des bourses va continuer. En 1902, on a 86 bourses dans le... En 1902, on a 86 bourses, et en 1914, on n'a que 8 départements qui sont dépourvus de bourses. Alors, ces bourses, elles vont, et c'est leur intérêt, je reviendrai peut-être en quelques mots de conclusion sur les aspects problématiques de ces bourses, mais elles vont surtout développer des œuvres sociales, alors le terme n'est peut-être pas forcément des services, qui sont censés couvrir un certain nombre de pans et de besoins exprimés par le milieu ouvrier, avec des succès divers. Alors, évidemment, on connaît les bourses comme des centres de résistance, c'est un peu le terme générique, mais il s'agit de faire en sorte que les syndicats qui sont abrités par ces bourses du travail puissent trouver une aide concrète lors des mouvements grévistes. Hein, donc ça se traduit par une aide à la popularisation des mouvements de grève, une aide à l'organisation matérielle et puis de la solidarité aussi nécessaire. Donc ça peut, il peut y avoir des aides aux familles qui sont mises en place, des prises en charge des enfants des grévistes, etc. etc. Bien sûr, il y a la mise en place de caisses de grève qui permettent de faire durer hein, le conflit. Mais plus que cela, puisque malgré tout, les conflits sociaux restent quand même l'apanage des syndicats et quelquefois ça déborde largement le milieu syndicaliste, les bourses se sont surtout caractérisées par la mise en place de services qui préfigurent d'ailleurs beaucoup de services publics que l'on connaît aujourd'hui, à savoir les services dits de placement, un peu l'ancienne ANPE, ancêtre de l'ANPE, avec quand même la différence que les services de placement des bourses du travail, qui vont se déployer dans environ, je vais donner les chiffres tout de suite, ce que j'ai pu. Services de placement des bourses, en 1907, il y a 103 bourses du travail, donc quand même une couverture nationale assez cohérente, qui s'occupe de placer les salariés. En matière de placement, les bourses, enfin en tout cas les animateurs des bourses, vont à la fois essayer de se distinguer des bureaux de placement privés gérés par les employeurs et dans un second temps, des bureaux de placement gérés par les municipalités. Puisque au début, ils étaient plutôt favorables à un placement gratuit lié aux municipalités. Puis en fait, en se rendant compte qu'ils savaient, considéraient bien faire les choses, quand les pouvoirs publics ont voulu reprendre un peu la main sur le sujet, il y a eu une opposition manifeste des bourses du travail. À partir de 1904, une loi entérine le fait qu'il y a nécessité, sur tout le territoire, de développer des bureaux de placement municipaux. Le placement des bourses du travail a tendance à péricliter, puisque là, il y a une concurrence directe entre finalement deux services publics, un géré par les municipalités, un géré par les syndicalistes eux-mêmes. Deuxième, ces grands services, c'est la question des cours professionnels. Donc, cours professionnels, dans un climat où l'apprentissage est plutôt en déclin pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, les bourses du travail vont développer, à la fois pour développer la professionnalité des salariés, maintenir leur capacité de pouvoir trouver du travail, et puis d'éviter l'enseignement réalisé par les employeurs, va générer des centaines, sinon des milliers de cours un peu partout en France, préparant les ouvriers, les jeunes ouvriers, à devenir des salariés compétents. On aura également des œuvres dites éducatives, alors qui se traduisent par des conférences d'éducation ouvrière ou populaire, le développement de bibliothèques du travail, très très importantes. Par exemple, la Bourse du travail de Paris comporte en 1905 5700 ouvrages. Sur le plan culturel, on va aussi avoir le développement de sections de pupilles, c'est-à-dire la prise en charge du temps hors scolaire des enfants des ouvriers, en essayant de leur faire avoir des activités autres que celles menées par certaines organisations multipliques de l'enseignement, notamment. En mot de conclusion, en ayant dépassé un petit peu le temps, alors je bien sûr tout un tas d'autres réalisations, il y a deux ou trois problématiques, je vais essayer de faire le pont avec ce qui a pu être expliqué par Gilles Candard. Il y a deux problématiques concernant les bourses du travail, deux ou trois. La question, d'une part, de l'homogénéité du mouvement des bourses. Une lecture assez rapide de la littérature sur le sujet voudrait nous faire comprendre qu'en fait, les bourses étaient toutes mues d'une même dynamique, avec une dominante des syndicalistes révolutionnaires et donc des bourses de travail très révolutionnaires. La sociologie, la socio-histoire de ces institutions montre qu'en fait l'animation des bourses est le fruit de quasiment toutes les sensibilités, en fonction bien sûr des territoires, mais toutes les sensibilités du socialisme du début du XXe, et qu'en définitive, même si la Fédération des Bourses est aux mains de syndicats révolutionnaires, sur le terrain, les conflits avec les municipalités ne sont pas du même ordre que les conflits qu'on peut avoir avec l'État central. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le cas justement de l'indépendance, et c'est quand même lié. On a un grand débat sur les bourses du travail, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont réellement autonomes et indépendantes ? C'est-à-dire notamment parce que pour les cours professionnels et pour le placement, elles bénéficiaient de subventions assez importantes. Et ça, c'est un débat qui avait été initié par Peter Schottler dans son ouvrage, qui a été un peu démonté par Jacques Julliard et puis d'un auteur qui est à la croisée du militantisme et du milieu universitaire qui s'appelle David Rapp, qui a fait un travail sur la Bourse du travail de Lyon. En fait, on se rend compte qu'un certain nombre de bourses ont pu être vraiment empêchées de fonctionner quand on leur retirait les subventions, quand elles étaient trop conflictuelles. D'autres ont cessé un certain nombre d'œuvres, mais ont continué politiquement à mener leur combat. Donc la situation est nettement plus complexe, et c'est pas un mouvement sous perfusion et totalement dépendant, mais ce n'est pas non plus un mouvement complètement indépendant. J'aurais eu beaucoup de choses d'autres à dire, je pense qu'on en parlera dans le débat, et donc je vais clore en évoquant juste la question que la fin des bourses, elle aura lieu en 1914 avec le conflit mondial, le premier conflit mondial, avec des choses qui ont été amorcées en amont, c'est-à-dire que au sein de la CGT, les partisans de la décentralisation, et pas forcément les militants syndicalistes révolutionnaires, notamment des partisans du syndicalisme révolutionnaire, vont amener les bourses du travail, vont amener la CGT à plutôt diminuer la part des bourses du travail au profit des unions départementales, pour le prétexte que ça favorisait la propagande syndicale, notamment sur l'ensemble d'un territoire. Et de fait, les bourses du travail, après-guerre, et notamment par le développement d'œuvres sociales gérées directement, les cours, l'enseignement professionnel, etc., les premières mesures de placement des ouvriers, les bourses du travail vont vraiment perdre de leur légitimité en ayant quasiment disparu, et en tout cas dans leur activité d'œuvres sociales et dans leurs services, dès les années 20.
Merci. Et l'on voit donc se dessiner ce débat à au moins trois pôles. On en a retracé deux, mais le troisième se dégage déjà des présentations. Une vision du socialisme ancré dans la République et dans son prolongement, une vision du socialisme ancré dans l'auto-organisation ouvrière et dans une certaine défiance à l'égard de l'État, et une vision d'une organisation ouvrière centralisée, hein, pour faire de la classe ouvrière un groupe social nouveau, organisé distinctement et de façon politique, pour intervenir demain dans des événements révolutionnaires. Mais ce qui frappe surtout dans les présentations, c'est le caractère pratique et les filiations historiques entrecroisées, distinctes et s'entrecroisant. Et ce n'est pas un débat théorique comme ça dans l'absolu. Hein, c'est une histoire du courant républicain, une histoire du courant socialiste, et à travers des réalisations concrètes dans le nouveau contexte de la République qui vont être théorisées, en fait, plus qu'imaginées. Hein, on voit là qu'on est dans une nouvelle période du développement du socialisme. On aborde une troisième période maintenant, celle du Front populaire, avec Vincent Chambarlhac.
Merci. Donc, je vais essayer d'être plus concis que mon distingué voisin qui me rendra l'appareil. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour intervenir sur le Front populaire à un moment où on ne le commémore pas, puisque chaque fois que j'ai dû intervenir sur le Front populaire, c'était dans des dates en 6, hein, 2006-1996. Et là, c'est sans doute 2016, si Dieu me prête vie. Mais là, voilà, on n'est pas dans une année en 6, ce qui veut dire que le... À mes yeux, en lisant, en discutant avec David qui m'avait sollicité sur l'objet Front populaire haute, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui parle du Front populaire en dehors de sa commémoration. Y a-t-il un souci ? Et la question à partir de ce moment-là, je me suis posé, c'était comment intervenir compte tenu du thème démocratie aujourd'hui en historien sur le Front populaire. Alors j'ai choisi de le questionner en fonction du présent, en travaillant sur les titillations que celui-ci suppose, c'est-à-dire pour résumer, parce qu'il en a été question, je pense, ces deux journées déjà, le phénomène des indignés, que moi je retraduis en historien en termes d'émotion, ici émotion antifasciste pour le Front populaire. Évidemment, le surgissement dans la campagne de la topique du front de gauche, hein, avec tout ce que l'occupation des places dans la Bastille ou Toulouse par le front de gauche implique éventuellement dans une relecture du Front populaire. Et enfin, de manière beaucoup plus large, sur ce qui a été abondamment discuté hier, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite dans les trois dernières décennies comme crise de la représentation politique. Donc, en fonction de ces trois axes, j'ai choisi, ça c'est le premier effet déceptif de ma démonstration, j'ai choisi de m'intéresser à la séquence d'avant le Front populaire, c'est-à-dire celle qui va du cours du 12 février 1934 au 14 juillet 1935, que j'ai appelée une séquence antifasciste française, je m'en expliquerai en conclusion, qui est finalement le point de lancement, le point de bascule vers ce qui va d'abord être un rassemblement, puis un Front populaire, et la victoire de juin 1936. Dans les commémorations, cette séquence, elle est évidemment présente, mais elle n'est jamais étudiée en tant que telle. Hein. On centre en général sur l'œuvre du Front populaire, les rapports des organisations entre elles, Parti communiste français, Parti socialiste, Parti radical, ou sur le mouvement de grève, hein, ce que Georges Lefranc appelait l'explosion sociale, hein, qui titille à nouveau la coalition gouvernementale. Et on a tendance à passer un peu sous silence, entre guillemets, dans l'analyse, cette courte séquence sur laquelle, moi, je voudrais revenir en trois temps. Alors, d'abord, de manière assez schématique, en résumant les trois temps de cette séquence, que les historiens ont tendance à analyser comme un processus cumulateur et fédératif, hein, ce qui revient à évacuer les temporalités et la part de l'événement. En m'intéressant dans un second temps à ce qu'est l'émotion antifasciste, qui me semble cardinale dans ce mouvement, pour terminer sur le moment où cette émotion antifasciste se ritualise, devient cadre politique par une cérémonie qui est le 14 juillet 1935, double cérémonie, un grand discours où on prête serment, où les forces du Front populaire prêtent serment au stade de Buffalo, à la limite de la banlieue et de l'agglomération parisienne, et ensuite par une marche Bastille-Nation, un grand classique des manifestations. Alors, dans un premier temps, un processus cumulateur et fédératif. Alors, je reprends l'expression au dernier Que sais-je paru sur la question par Jean Vigreux, voilà, qui, en quelques courtes pages, c'est la logique du Que sais-je, exécute cette préhistoire du Front populaire 1934-1936 par l'idée d'un processus où finalement tout mène à l'alliance. Or, à mes yeux, les choses sont un peu plus complexes et c'est davantage un effet rétrospectif que de voir cette montée vers l'alliance comme ça progressive, qu'une réalité historique. Alors pour essayer de l'illustrer, je vais d'abord peindre le contexte général qui fait que l'antifascisme surgit à ce moment-là, puis ensuite venir sur ce surgissement. Alors, si on cherche à resituer le Front populaire, la dynamique antifasciste dans un espace large, il faut comprendre qu'on a l'impression en France qu'on va être, à un moment donné ou à un autre, dans l'œil du cyclone. On a une séquence où les partis fascistes prennent le pouvoir, ou tout du moins tendent à montrer qu'ils vont le prendre, en Europe. Hein. C'est un grand classique de l'histoire scolaire, hein, donc la crise autrichienne, la prise du pouvoir par Hitler en 1933, évidemment l'Italie de la marche sur Rome depuis 1922. Donc ça, c'est contexte englobant, surplombant, qui se noue évidemment à la question de la crise elle-même, hein, qui, si elle éclate en 1929, touche véritablement la France à partir de 1930-31. Et une partie de la droite acquiesce à la solution autoritaire, d'autant plus qu'ils craignent que la crise économique débouche sur une prise du pouvoir par les communistes. Hein. Donc acquiesce à une solution autoritaire de type fascisant, crypto-fasciste ou autre. Je laisse de côté le débat, on pourra y revenir si vous voulez, sur existe-t-il un fascisme français, hein. C'est une sorte de sparadrap du capitaine Haddock dans l'histoire contemporaine. Donc, on va le mettre de côté. Et en France, si vous voulez, la position de la bourgeoisie, pour la simplifier telle que Daniel Guérin le fait dans Front populaire Révolution manquée, hein, c'est classiquement plutôt Hitler que Blum. Or, cette situation, bon, qui traduit les enjeux de l'élection de 36, elle est préexistante à 32-33. Alors en France, en plus, se rajoute à ça un climat de crise et de corruption, hein, dont l'affaire Stavisky va être l'illustration parfaite, hein, donc forme de cavalerie, une sorte de Madoff français de l'époque, couvert en partie par des sommités du Parti radical, Piarro et autres, et Stavisky qu'on retrouve suicidé de deux balles dans le dos, selon le titre du Canard enchaîné, dans son chalet à Chamonix, ce qui permet de faire taire le scandale. Et donc, il y a vraiment le parfum de corruption, de crise, de fin de règne, et tout ceci va éclater le 6 février 1934, quand, à la faveur d'un nouveau gouvernement, le gouvernement Daladier, le préfet Quiap se voit qui est le préfet de police plutôt favorable aux ligues d'action qu'on peut qualifier de fasciste ou très à droite dans tous les cas. Donc le préfet Quiap va se voir proposer une mutation qu'il refuse. Et les ligues, le 6 février 1934, appellent à manifester pour soutenir le préfet de police Quiap. Alors cette manifestation, elle est complexe parce que s'il y a bien évidemment des ligues d'extrême droite, très clairement, des ligues de droite très dures, comme les Croix de Feu, il y a aussi l'ARAC, Association des Anciens Combattants. Ils ont à l'époque 30 ans, ces anciens combattants, et pour eux, se battre est naturel. Ils ont été socialisés par 14-18. L'ARAC, elle, c'est un mouvement communiste. Hein. Et donc la manifestation s'ébranle au cri d'un traditionnel contre la gueuse, hein, tous pourris et autres. Et une partie des manifestants va chercher à prendre d'assaut le palais Bourbon, ce d'autant que la police est en retard, plutôt favorable au préfet Quiapot, et finalement ce sont les Croix de Feu qui s'opposeront et qui empêcheront finalement que le palais Bourbon soit pris. Donc, situation complexe, mais qui est reçue tout de suite dans l'espace de l'opinion publique des gauches comme une tentative de coup d'État fasciste. Après Rome en 1922, après Berlin en 1933, Paris en 1934. Et c'est ici que surgit un antifascisme de masse non théorisé par les partis communistes, hein, par les partis politique de gauche. Le Parti communiste est à son époque, à son étiage le plus bas en termes d'effectifs militants, puisqu'il est, il est dans la ligne classe contre classe, que rappelait Gilles, hein, où il s'agit de plumer la volaille socialiste, où il s'agit de dire que le socialisme commence, que le fascisme commence avec le socialisme. Donc on est dans une gauche très divisée, qui ne, n'identifie pas vraiment ce qu'est la menace fasciste, hein, ou qui ne la lit que dans la classique lecture marxiste-léniniste, hein, de stade suprême du capitalisme. Et donc, le 6 février 1934 est reçu un peu comme un avertissement. Et ce qu'il se passe, c'est que la gauche partidaire, syndicale, bien que divisée, va voir ses militants, à partir d'une manifestation, le 12 février 1934, va voir ses militants s'unir, cour de Vincennes, hein, c'est-à-dire le cortège communiste et le cortège socialiste, qui avaient l'habitude de se taper dessus quand ils se rencontraient, va s'unir au cri d'unité, unité. Alors, c'est la base syndicale qui permet ça, CGT, CGTU, plus que les appareils politiques. L'écho du 12 février 1934 va donner naissance à ce que Gilles Vernion appelle un printemps des comités antifascistes en province. Toute une série de comités va se construire pour occuper la rue, dans une topique de contre-manifestation contre les fascistes. Alors, ce printemps des comités est illustré, par exemple, à Paris, par la naissance du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Alors, donc, on est bien aux marges du politique. C'est là qu'on fait parler les principes, la défense de la République, la lutte contre le fascisme, la lutte pour la paix, ce qui permet l'unité que le politique ne peut pas faire à ce moment-là. Et en province, le mouvement est très ample, pris en charge par deux types de structures. Les associations, alors la première d'entre elles, c'est bien évidemment la Ligue des droits de l'homme, et les bourses du travail, c'est-à-dire CGT, CGTU, hein, dans des configurations où tous les militants se connaissent, hein, des petites villes ou autres comme Vizy. Voilà. Il y a unité, alors même qu'auparavant, elle n'était pas possible. Cette unité, elle est impulsée par le bas. Elle va travailler, évidemment, le politique, et le 17 juillet 1934... La Fédération de la Seine et le Parti et le PCF, la Fédération socialiste de la Seine et le PCF, signent un pacte d'action commune qui ensuite va s'élargir durant la période 1934-1935 aux radicaux, ce d'autant plus qu'à ce moment-là, l'international communiste est en train de tourner, d'abandonner la logique classe contre classe pour aller vers une logique de défense de la démocratie. Et en mai 1935, Staline dit comprendre et approuver la politique extérieure de M. Laval, c'est-à-dire le réarmement. Et c'est la phrase qui officialise aussi le rassemblement des radicaux dans une dynamique qui va être celle du Front populaire et qui va se donner à voir en pleine puissance le 14 juillet 1935. Donc très rapidement, si vous voulez, on pourra revenir sur l'ensemble de ces dates, etc. Hein, très rapidement, voilà, c'est cette séquence antifasciste que je me propose de travailler. Et de la travailler en deux temps. D'abord en la questionnant sur le registre de l'émotion. Dans cette courte chronologie, le printemps antifasciste seul m'importe véritablement dans un premier temps. Il donne à voir comment, d'un événement, naît une reconfiguration politique totale à gauche et éventuellement aussi à droite, hein, ce qu'un colloque organisé par Gilles Candard, Front populaire, choc et contre-choc, avait eu tendance à montrer. Alors,
c'était Gilles Morin, mais c'est pas grave. C'est Gilles de Ministériographie.
Voilà les Gilles de Ministériographie. Alors, ce printemps antifasciste, c'est d'abord, à la base, la nécessité d'organiser une riposte, hein, face à des forces clairement identifiées comme fascistes. Et la forme idoine de cette riposte, c'est le comité, qui est la forme idoine d'un antifascisme militaire beaucoup plus large que toutes les déclinaisons qui avaient pu exister dès les années 20. Le comité, il naît de l'émotion de l'événement et il mobilise la mémoire de la Révolution française. Celle-ci revient très fortement, Gilles Vernion le montre notamment pour Vizy, hein, et derrière le comité antifasciste se profile l'ombre du comité de salut public, etc. Il y a des Gilles partout sur l'antifascisme, vous remarquerez que je m'appelle Vincent. Donc le comité Vincent, semble... voilà. Le comité semble la forme ad hoc de mobilisation du moment antifasciste, indiquant, à mes yeux, une politisation par le bas contre les appareils partisans qui, eux, sont divisés, qui vont mettre du temps à revenir dans le débat. Donc, une mobilisation au défaut des appareils. Cette mobilisation importe parce que, dans ce mouvement, le poids des syndicats et des associations indique le caractère social de cette émotion antifasciste, sursaut qui va reconfigurer le champ politique. Alors, Le comité, c'est donc le lieu de l'espace d'occupation de la rue et des places dans une réplique au fascisme. Il s'agit donc systématiquement de contre-manifestations. Et il revient, dans la logique des comités, aux militants d'occuper la cité. Et l'antifascisme paraît là un énoncé collectif apte à rassembler, quelles que soient les motivations tangentielles des membres du comité. Donc, quand on parle de l'antifascisme du Front populaire, il est nécessairement pluriel. Et ce qui fait la force de cette séquence, et sa fin aussi, c'est qu'il n'a pas de définition préalable. On peut être antifasciste pour la défense de la République, comme on peut être antifasciste sur les marges du syndicalisme révolutionnaire, comme Monat et Rosmer, au titre du pacifisme, au titre du plus jamais 14-18, au titre d'une transformation sociale de la société, comme on peut l'être par internationalisme, soutien à la cause de la gauche allemande, etc. Les exilés sont nombreux en France à ce moment-là. Ils importent d'ailleurs le rite du point levé qui naît à ce moment-là. Donc un antifascisme qui ne se définit pas, mais qui rassemble, qui noue, qui agrège. Alors, c'est ce caractère d'énoncé collectif qui me retient un peu, parce qu'il indique ce que, en histoire moderne, on a appelé une politique du peuple au sens des émotions populaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on évoquait hier les questions de révolte et de révolution, la révolte, elle surgit et elle occupe la rue, en histoire moderne et en histoire contemporaine, quand il s'agit de recoudre, de considérer que le tissu social a été déchiré et qu'il faut le raccommoder. La révolte n'est pas nécessairement porteuse de la révolution qui, elle, suppose une transformation radicale du système politique. Or, cet antifascisme-là, il est davantage axé sur la question de la révolte et sur la question d'une crise du tissu républicain et d'une crise de la représentation politique à gauche, qui semble atone face à une menace fasciste toujours plus forte. Et donc, on voit ressurgir dans cette politique du peuple une part de l'arsenal des figures classiques du 19e et 18e siècle dans les émeutes, les révoltes populaires, la lutte des petits contre les gros, le retour de la figure de l'émigré au sens de la Révolution française, c'est-à-dire extérieur au corps national ou autre, ça, le mythe des 200 familles le porte, etc. Ce qui fait que, même si l'historiographie, et Gilles Vernon le premier, acquiesce à l'idée d'un printemps antifasciste qui renoue avec des formes dreyfusiennes d'action, le comité, etc., et qui, d'une certaine manière, serait jaurésien, à mes yeux, en fait, c'est plus le motif que la trame de ce printemps antifasciste. Il me semble que la trame va beaucoup plus loin, qu'elle pose la question de l'acculturation républicaine sur le temps long, et que finalement, ce qui va se jouer dans ce printemps antifasciste, c'est la nécessité, alors là, on peut reprendre la formule de Jaurès, la nécessité de dépasser la République par la République sociale, ce qui à la fois indique un souci de défendre le cadre politique et démocratique, et en même temps l'idée qu'il faut aller plus loin et qui renvoie à la part éminemment sociale de ce soulèvement antifasciste, de ce surgissement antifasciste. Et la politisation va prendre forme à partir du pacte d'unité d'action, véritablement, et va prendre la forme d'un contrat politique, d'abord entre le Parti socialiste et le Parti communiste, et les associations présentes dans les comités, ce qui représente à peu près une quinzaine de 70 associations, et ensuite avec le Parti radical. Et par ce contrat, l'énoncé collectif qui était l'antifascisme devient Front populaire et se nationalise, d'où l'idée de séquence française, c'est-à-dire qu'il va en principe, déboucher sur une solution politique dans le cadre national. Et c'est ce débouché politique dans le cadre national qui formera la deuxième et dernière partie de mon propos. Il doit me rester 10 minutes. À peine. Voilà. Qui est ritualisé quand le politique s'approprie le citoyen. Alors, 6 minutes, très bien. À partir de l'accord politique, ce qu'on aperçoit, c'est que ce qui était contre-manifestation devient petit à petit une manifestation en soi, une manifestation de la puissance antifasciste, du peuple de gauche dans la rue. Et le 14 juillet 35 va être l'acmé de ce mouvement pour plusieurs raisons. Il est décidé, alors par contact entre le Parti communiste, la CGTU, la CGT, la Ligue des droits de l'homme, le CVIA, etc., il est décidé de faire une journée nationale d'action antifasciste dont il s'agirait de prouver que les forces de gauche sont capables de faire ce que les croix de feu font depuis 3-4 ans dans l'espace national, c'est-à-dire organiser, canaliser une grande manifestation pour faire démonstration de sa force. Et pour la première fois, selon Daniel Tartakovsky, cette manifestation va trouver en elle-même sa propre justification donnant le spectacle d'une fête du peuple qui commémorait non plus la réplique qui est le 12 février 34 à la menace du 6 février, mais le 12 février 34, l'unité retrouvée. Cette manifestation va se dérouler en deux temps, hein, la cérémonie de rassemblement et de prestation de serment au stade Vélodrome à Buffalo, puis ensuite Bastille-Nation. Et le serment précise, hein, je vous le lis, là nous faisons le serment de rester unis pour défendre la démocratie, pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour mettre nos libertés hors de l'atteinte du fascisme. Nous jurons en cette journée qui fait revivre la première victoire de la République, de défendre la liberté conquise par le peuple de France, de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et au monde, la grande paix humaine. La manifestation recueille plus de 50 000 personnes selon les sources policières. On peut monter jusqu'à 500 000. C'est un jeu classique que tout le monde connaît. Donc, de Bastille à Nation, la démonstration de force est réussie. Un film de la gauche révolutionnaire, qui est une partie, une tendance de la SFIO, commente à propos de ce cortège, le peuple a repris conscience de sa force. Alors, ce qui m'intéresse dans cette mise en scène, sont les lectures qu'on peut en faire. Alors, le 14 juillet 1935, c'est une cérémonie qui emprunte au vieux modèle de la fête de la Fédération de la Révolution française. Il s'agit de mobiliser l'imaginaire national de la Révolution. Alors Jacques Duclos le fait, mais en même temps, il va se draper au nom du Parti communiste, à la fois dans la Marseillaise et l'Internationale. Donc ce qui exclut dans ce jeu-là, la mise en accusation révolutionnaire du régime. Il s'agit bien de défendre le régime, c'est ce qui fait le tournant du Parti communiste. Il s'agit de défendre la République, de défendre la démocratie contre les ligues fascistes. Et le mot qui fait florès à ce moment-là, c'est le mot de Léon Blum, l'expression de Léon Blum sur la défense de la vraie République, opposée à une République factice ou autre. Alors, on a un jeu aussi comme ça sur le pays légal, pays réel, qui était une antienne véritable de l'extrême droite, ou de la droite dure et mauricienne, et qui est repris au titre républicain par Léon Blum. La vraie République, c'est la France socialiste, celle qui va mailler l'ensemble du territoire, c'est ce qu'ont fait les comités, et celle qui va projeter un régime républicain dans un régime républicain social. On est bien là dans le jurassisme le plus cristallisé. Alors, que conclure de tout ça? La première chose, c'est que cette prestation de serment et cette démonstration de force, le peuple de gauche montrait sa victoire haute, c'est d'abord une transformation. Le peuple, avec un petit p, devient le peuple énoncé démocratique, et la gauche seule est capable d'être le peuple en tant que corps citoyen. La droite est boutée du jeu national dans ce cadre-là. C'est une manière de délégitimer les croix de feu, etc. Et une manière de lier l'ensemble disparate des ligues à la question du fascisme, toujours conçu comme l'autre, comme extérieur à la nation. La deuxième chose, c'est qu'en cristallisant l'antifascisme et en lui donnant une définition républicaine, de défense de la République haute, la cérémonie du 14 juillet met fin à l'énoncé collectif. Elle va produire les conditions de séparation, de reconfiguration des gauches. Le PC trouve là la force de se relancer. C'était une secte, pour aller vite, en 1934. En termes de militants, 10 députés à l'Assemblée, ils ne comptaient pas. Alors, je ne dis pas qu'elle n'était pas active, mais c'était une secte. À partir du Front populaire, on rentre dans un véritable parti de masse, ce qu'il espérait, ce qu'il voulait être depuis sa fondation. Et on a là l'élan qui va le maintenir jusqu'aux errements des années 80 en termes de chute d'effectifs ou autre. Donc le Front populaire, c'est bien ce début. Et c'est par la rencontre avec la question de la nation déclinée dans un cadre antifasciste. Alors ce reclassement profite d'abord à la SFIO, qui devient le premier parti de gauche, profite au PCF, entame la chute graduelle. Enfin, elle était déjà là, mais précise des radicaux. Et sur les marges de gauche du Front populaire, on voit un double mouvement, un triple mouvement se faire jour, qui, à mon avis, éclaire aussi une partie des jeux qui vont avoir lieu de 36 à nos jours, à peu près. Premièrement, c'est un déclassement, une obsolescence de traditions héritées du mouvement ouvrier du XIXe siècle, au premier chef, le syndicalisme révolutionnaire. Le syndicalisme révolutionnaire est totalement dévitalisé de sa force par le biais du front populaire, ce d'autant plus que dans ce jeu-là, on va s'en remettre davantage à l'État, hein, les premières conventions collectives, etc., etc. Et donc, c'est la fin totale de cet objet qui était les bourses du travail, hein. Mai 68 tendra à ressusciter en partie cet esprit-là, mais sur une logique largement théorisée, autogestionnaire, largement théorisée par Jacques Julliard, tout le travail de David est là pour le montrer, autour de la CFDT, etc. Donc on n'est pas dans la même logique. Le syndicalisme révolutionnaire est définitivement mort là, hein, à mon avis. Alors deuxième logique, on voit, puisque ces traditions deviennent obsolètes, moribondes, agonisent, hein, je suis en train de terminer, hein, on voit surgir à ce moment-là, un nouvel épithète pour les désigner, qui va d'abord être un épithète stigmatisant, qui est celui de trotskiste. En 1937, le trotskiste, c'est le diviseur, celui qui casse l'unité du Front populaire. C'est le mot utilisé par les staliniens, hein, juillet, etc. Et ce mot-là va petit à petit servir à recouvrir l'ensemble de ces traditions obsolètes du mouvement ouvrier. Et on va les retrouver après, il va prendre au feu de la guerre, il va prendre une épaisseur qui est celle qu'on lui connaît actuellement. Troisième point, on voit aussi que à partir du moment où la coalition s'est donné un cadre républicain, a ritualisé les motions antifascistes, on voit que ceux qui espéraient peser à l'intérieur, qui n'y arrivent pas, ne vont pas pouvoir s'unir et vont entamer des dérives de plus en plus inquiétantes. Alors, il y a eu une tentative le 10 et 11 août 1935 d'unir les dissidences de gauche du Front populaire, ce n'est pas encore là, pour créer un Front populaire de combat. Cette tentative a échoué puisqu'il y avait Georges Valois dans cette logique-là, qui est un véritable fasciste pour le coup, et voilà, venu du syndicalisme révolutionnaire, comme Sorel, hein, mais c'est un autre débat. Et dans cet échec-là, on va voir partir toute la dérive de Doriot, Déa, etc., vers ce qui sera le Rassemblement national populaire ou le PPF, hein, c'est-à-dire vers un fascisme qu'on verra triompher en 1940. Donc, en conclusion, voilà, il ne s'agissait pas de déconstruire pour démobiliser en disant voilà, d'une émotion à la ritualisation, mais juste de montrer comment, en fait, un mouvement social reconfigure nécessairement le politique et que cette reconfiguration par le politique fait que les significations que le mouvement social accordait à son action dans la rue excèdent toujours sa traduction politique. Je vous remercie.
Merci d'avoir respecté le temps. En tous les cas, on va se précipiter de proposer à Jean-Luc Mélenchon d'organiser une grande manifestation le 14 juillet 2012, non seulement pour que les gens aient autre chose à faire que d'aller voir le défilé, comme dit le chanteur, mais peut-être aussi pour, dans ce contexte de crise rampante et de réarmement de la bourgeoisie, hein, dont on voit bien qu'après les élections, elle va utiliser encore plus fortement et radicalement le chantage de la dette, mais de crise de montée de l'extrême droite rampante et de réarmement très progressif et de loin en loin de la gauche, eh bien, il y a peut-être la nécessité de se donner des étapes, à la fois en termes d'émotions collectives et d'organisation. Alors, je fais cette violente entrée dans l'espace politique un peu volontairement pour lancer le débat. Et pour dire que si notre initiative contribue un tant soit peu à sa petite mesure à donner de la visibilité à l'histoire sociale, on en est ravis, hein, parce que les sociologues en ont grand besoin, mais aussi parce que je crois que c'est une nécessité de la période, hein, de se réintéresser. On a vu hier autour des indignés, autour de la place Tahrir, à quel point il y avait des processus de politisation en marche et aussi à quel point une forme de désarroi ou de recherche d'orientation était manifeste. Et le retour vers l'histoire peut permettre cela aussi, que de voir les sillons qui ont été creusés par le passé et de quelle manière on peut aussi, dans le contexte d'aujourd'hui, construire l'avenir. Et je pense qu'il est d'une grande utilité, que chacun à sa manière, hein, et sans chercher à faire des rapprochements qui ne sont pas si simples à faire, mais que les libertaires ou que les gens de sensibilité autogestionnaire ou critiques à l'égard de l'État, je ne sais comment le dire aujourd'hui, se saisissent de leur propre histoire et que ceux qui sont surtout venus à la politique par la défense de l'État social, les services publics, de la République, etc., se saisissent aussi de leur propre histoire, et ça sera peut-être la meilleure manière de poser les conditions d'un débat commun sur la République sociale. La parole est à la salle, on a à peu près 40 minutes. Ça serait bien si quelqu'un faisait passer le micro.
Dans les westerns, 40 minutes.
Alors bon, même si j'étais absent pour différentes raisons, j'ai loupé les trois quarts, bon, je m'en excuse. Alors, j'imagine que vous l'avez abordé peut-être de manière sous-jacente, mais comment se servir de ces expériences de ces propositions qui ont été faites, qui ont été débattues, discutées, etc. Comment aujourd'hui, alors aussi bien sur le plan de la recherche, mais plus sur le plan du militantisme, comment remobiliser en quelque sorte, alors j'imagine que vous l'avez déjà évoqué encore une fois, mais peut-être qu'on peut revenir là-dessus, sur aujourd'hui comment se servir finalement de ces débats fondateurs dans la période contemporaine.
Je crois qu'on va tous prendre la parole, c'est ça? Non, c'est vrai. Oui, de gauche à droite.
De droite à gauche.
Il n'est pas vraiment simple de réintroduire facilement des choses qui sont quand même datées, même s'il y a des choses qui peuvent être qui peuvent interroger. C'est vrai que dans le cas, bon, je reprends la question des bourses du travail, c'est une tentative à un moment donné où il n'y a pas justement un état social très développé, où il y a des besoins exprimés très clairement par une large partie de la population et large partie de la population qui est ouvrière, d'essayer de développer des œuvres sociales, hein, des choses qui répondent et qui en même temps préfigurent, dans la mesure du possible, une société au futur qui n'est pas vraiment, dessinée. Hein. Aujourd'hui, parce que justement cet état social est plutôt en déliquescence et parce qu'on peut voir aussi ici ou là des initiatives qui font que des acteurs sociaux se réapproprient finalement leur capacité d'agir et font sans attendre, on peut trouver là des choses qui feraient le parallèle, hein, avec ce qui peut se faire sur ce qui pourrait être réalisé par les bourses du travail. Ceci étant, c'est vrai que les bourses du travail agissant sur le terrain essentiellement du salariat et du travail, même si les activités éducatives n'étaient pas absentes, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelle est la part de liberté, surtout quelle est la démocratie au travail. Hein, et aujourd'hui, c'est quand même une question, en tout cas, si moi j'ai des choses qui s'entrechoquent entre ce que je peux lire de ce qui était écrit il y a une centaine d'années et aujourd'hui, c'est véritablement cette absence, hein, aujourd'hui, de réflexion. Alors, on le retrouve un peu, mais les bourses de travail n'ont pas été forcément pionnières là-dedans, parce qu'il y aurait eu tout un débat. Hein, si j'avais eu un peu le temps, j'aurais pu aussi pu discuter de la question des liens entre les bourses du travail et le mouvement coopératif. C'est vrai que Raison d'agir a déjà organisé un certain nombre dans le cadre de ces festivals de points sur la question coopérative. Et là, on pourrait retrouver effectivement des choses aujourd'hui. On voit qu'il y a des reprises en coopérative, que la question de la démocratie au travail, de la réappropriation du travail se pense et se fait. bon, dans un contexte économique quand même complexe. Là, on peut trouver des passerelles. Mais très concrètement, aujourd'hui, mais en même temps, il n'y a pas de tentative, on sait que le marché du placement des salariés est... parce qu'on parle maintenant de marché. Auparavant, il y avait un monopole qui était lié à NPE et Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'agences privées qui sont appropriées cet espace-là, hein, avec des systèmes d'appel d'offres. Une question, c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour les salariés justement de se réapproprier cette capacité finalement à gérer dans le cadre de la recherche du travail un certain nombre d'outils qui ont pu être expérimentés une centaine d'années et qu'on retrouve dans certains, bon c'est vrai quand on voit ce qui a pu se faire, alors je change de continent, mais en Argentine il y a eu des offices de placement des salariés gérés par, alors c'était pas forcément les syndicats, mais des collectivités de travailleurs, etc., etc., ou des comités de quartier. Voilà, il y a beaucoup de choses à puiser, mais c'est pas simple. Et en tout cas, moi, je ne sens pas véritablement aujourd'hui quand même de véritable dynamique. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, quoi. Je ne vois pas comme ça. Même si ce serait appréciable, de mon point de vue.
Ce qui est de la période jurésienne, évidemment, on ne peut pas y avoir de transposition. Je dirais, c'est par rapport à votre question, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on voit bien qu'une des difficultés, justement, de la période jurésienne, c'est une période où la démocratie s'organise, donc où se constituent les partis, les syndicats, les coopératives, sous la forme qui va dominer au XXe siècle. Et aujourd'hui, bon, on sait à la fois il y a une crise de ces formes partis, syndicales et coopératives, qui néanmoins, alors après il peut y avoir un débat, néanmoins sont peut-être quand même toujours des pôles ou des môles, disons, de résistance ou de contre-intervention qu'il faut peut-être faire attention de ne pas trop bousculer ou supprimer, parce que ce n'est pas parce qu'on les supprimerait que ça irait forcément mieux. Mais, enfin, ça, c'est ce que je pense personnellement, parce que je suis plutôt du côté de l'historiographie, disons, républicaine, voilà, pour reprendre la présentation qui a été faite par notre président. Mais bon, on voit bien que, ne serait-ce que dans la dernière élection présidentielle, qu'aussi bien du côté socialiste, le mode de désignation du candidat pose problème par rapport à ce qui était traditionnellement le Parti socialiste. Du côté communiste, également, on a une situation un petit peu inédite, avec le candidat qui ne vient pas du parti. Et puis, je dirais, même du côté de l'extrême gauche, le fait qu'Olivier Besancenot ou Arlette Aiguillet n'aient pas voulu de nouveau être candidat, on voit bien qu'il y a des problèmes pour continuer à faire vivre la politique sous la forme des canaux du parti, du syndicat, des associations, et qu'on est à la recherche, disons, de modes d'intervention ou de participation, d'animation renouvelés, pour que ces formes puissent s'adapter au XXIe siècle. Et quand on regarde la réaction de Jaurès aux difficultés qui étaient créées en son temps, lui qui n'était pas du tout un homme de parti, par exemple, Jaurès et le parti, c'est vraiment, on pourrait faire toute une série, mais c'est vraiment un anti-Lénine là-dessus. Hein. Jaurès, son mode d'intervention, c'est d'essayer justement de développer le plus possible les échanges, les confrontations, les débats, je dirais, entre militants politiques, syndicalistes, associatifs. Il le fait dans le cadre républicain, il le fait dans le cadre, disons, de son compte-rendu de mandat, du rapport entre l'élu et le terroir, hein, dans le Tarn. Il refuse d'ailleurs d'aller à Paris. Il le fait beaucoup par le journal, l'Humanité, où il fait s'exprimer les uns les autres. Donc, aujourd'hui, là aussi, on voit que ce serait difficile. Ça poserait, je dirais, la question de la presse, de la télévision, d'Internet. La presse écrite n'est plus tellement... Moi, je suis toujours frappé par le fait que la plupart de mes élèves veulent devenir journalistes, enfin au moins 50%, et qu'en même temps, ils achètent beaucoup moins de journaux que ce qu'il y a que dans la génération précédente. Hein, donc là, il y a à la fois une demande et puis une difficulté, je sais bien aussi que les journaux coûtent cher, hein, tout, une difficulté à être eux-mêmes lecteurs, consommateurs de journaux. Donc on voit bien que, bon, du temps de Jaurès, l'Humanité, c'était quelque chose d'essentiel, et que l'Humanité réussit, malgré toutes les embûches et autres, à être un peu aussi une journal de référence pour les syndicalistes, pour les coopératifs et tout, c'est le journal où les gens se retrouver. Aujourd'hui, on devine bien que pour que justement on puisse refaire fonctionner un peu l'ensemble, il faudrait des lieux où politiques, syndicalistes, chercheurs, associatifs se rencontrent. Hein. Tout en commençant mon intervention, je disais que justement, les colloques des années 70, il y avait sans doute plus de brassages de gens d'origine différente qu'aujourd'hui. On se rend bien compte que c'est difficile. À mon avis, comme je suis du côté de l'historiographie républicaine, ça passerait quand même par une action volontariste qui ferait qu'on arriverait à transformer réellement, je dirais, la télévision, la radio, Internet, enfin qu'on puisse encourager tout ce qui serait justement forme sociale, télévision ou radio ou autre, régionale, municipale, associative. Eh bien, il faut que ce soit, disons, relayé par un investissement des pouvoirs publics nationaux et centraux, pour que de nouveau il y ait des connexions, des débats, des confrontations. Et c'est simplement qu'en se parlant les uns les autres et en s'en garlandant qu'on arrive à déboucher sur des rassemblements concrets pour faire quelque chose, quoi.
Alors, si je retraduis votre question en termes médiévaux, c'est le mort saisit-il le vif, c'est-à-dire le Front populaire parle-t-il encore aujourd'hui en termes juridiques, oui. Alors, c'est assez intéressant. Moi, ce que je vois, c'est que la séquence ouverte par la campagne de 2006 s'est quand même traduite par, pour y avoir participé, par une effloraison de comités. Alors, ça passe par le web 2.0. C'est évidemment pas la même logique que les comités antifascistes de 34, mais on a juste l'exemple du comité de vigilance face aux usages de l'histoire. Dans le titre même, on y a bien l'idée qu'à ce moment-là, le principe de vigilance inventé par l'ethnologue Daniel Rivet, qui sera le premier élu du Front populaire en 1935, donc sur une élection ponctuelle, montre bien que ça parle et qu'il faut être vigilant. Donc je pense qu'il y a, depuis 2006-2007, sur les usages de l'histoire, on a été, alors d'abord par le biais de la colonisation, mais ensuite de manière beaucoup plus large, les historiens ont été invités à venir discuter dans les assemblées, alors pas seulement syndicales pour refaire l'histoire des popotes syndicales, mais pour l'avoir fait de nombreuses fois, pour travailler sur un certain nombre de sujets qui auparavant étaient davantage l'apanage des sociologues et des philosophes. Alors ce préambule pour dire qu'effectivement il se joue quelque chose. Il y a des usages du Front populaire, Pour aller vite, ce que la séquence antifasciste que je vous ai tenté de montrer, sans doute en caricaturant un peu, hein, évidemment, c'est la logique du temps. Cette séquence-là, elle permet de comprendre le phénomène des indignés sur une autre logique que celle qu'on nous présente médiatiquement. Les indignés, donc, qu'est-ce qu'ils demandent pour caricaturer un retour à l'ordre d'avant, défense du... défense de l'État social ou autre, hein, c'est-à-dire tout ce que le CNR avait mis sur pied, le CNR qui est le dernier écho du Front populaire, qui en France est en train de partir en lambeaux. Donc du Conseil national de la résistance. Donc là, on a déjà une première logique où il s'agit de se réapproprier une expérience pour la défendre et pour peser sur le contemporain. Ce qui est une vraie rupture, hein, par rapport aux 20-25 dernières années. Premier point. Ensuite, cette logique de Front populaire, elle est consciemment assumée par le Front de gauche, très très clairement, mais qui me semble tirer son expérience non seulement d'une méditation uniquement sur l'histoire. Ça, Mélenchon le fait très bien, on rephrase toute l'histoire du mouvement ouvrier avec 1848, 1871, enfin en taisant 1848 dans son discours à la Bastille parce que c'est les journées de juin, hein, autant de morts que la commune, etc. Mais en jouant sur 1830-1871, et en fait, autour du printemps des peuples ou de 48, en jouant sur la situation grecque, en reprenant des formules que le Front populaire avait déjà reprises, hein, c'est plus les 200 familles, c'est l'oligarchie, mais on est bien dans cette logique-là. Et ça parle. Donc ça montre bien que politiquement, c'est encore actif. Alors ensuite, la deuxième médiation dans cette réutilisation consciente du Front populaire, qui est la première véritablement conséquente depuis les années 70, hein, et de manière plus centrale que dans les années 70. La deuxième médiation, c'est qu'il y a aussi une réflexion sur l'antifascisme qui, pour une fois, se pose dans les termes d'un rapport de force électorale, ce qui n'était jamais le cas auparavant, hein, où la Ligue communiste révolutionnaire nous avait habitués, j'étais le premier à le faire, à aller manifester contre Le Pen. Donc, dans les années 80, je faisais partie de ceux qui essayaient d'empêcher les meetings ou autres, mais il n'y avait jamais de traduction électorale, finalement. Hein. Et la grande traduction électorale antifasciste, c'est l'élection de Jacques Chirac en 2002 face à Le Pen, ce qui laisse quand même rêveur. Hein. Pour ceux qui ont voté, c'était une sorte de seppuku japonais. Donc, voilà, il y a ça. Et là, pour le coup, en désignant Marine Le Pen comme l'adversaire principal et en identifiant ce qui est évoqué hier, le glissement de l'UMP vers le FN, Jean-Luc Mélenchon dote et ses conseillers, hein, dotent le front de gauche d'une positivité que le front dote l'antifascisme d'une positivité que, à mon avis, la séquence que je vous ai présentée avait réalisée. Hein. Et c'est là où, alors, faut voir ce que ça donnera, hein, évidemment. Je pense que si le 14 juillet 35 de Jean-Luc Mélenchon ne doit pas avoir lieu après l'élection présidentielle, si on est dans une reprise exacte du modèle, attendons-nous à une explosion sociale. Je suis plus dubitatif pour le moment. Ben, l'histoire ne se répète jamais, même si elle bégaye. Mais on est dans cette logique-là. Et son pari, c'est quand même de donner un contenu positif, réactualiser la question de l'antifascisme. Ce qui entraîne, d'un point de vue historiographique, une redéfinition de ce qu'on appelle le fascisme français. Hein, c'est tous les débats depuis 5-6 ans autour de Michel Daubry, etc., autour de la question de Doriot, donc publié chez Raison d'agir, je peux faire de la pub au passage, et tous ces débats-là qui reviennent très clairement et qui s'adossent à ce contexte. Alors, la question, c'est jusqu'où l'analogie mortelle sur le présent. L'historien ne peut donner de réponse que bien après coup. Donc, chaque fois qu'on fait dans l'anticipation, ça relève de Star Trek, hein, et de Spock. Donc, en fait, je suis pas bon pour ça. Mais il me semble que ça mord. Voilà.
Merci pour cet effort.
Alors, notamment sur l'antifascisme, et enfin, je peux essayer de généraliser la question. Il y a un truc qui me paraît intéressant, enfin, notamment quand l'opposition à Jean-Marie Le Pen se crée au début des années 80 et notamment en 84, enfin, la scission en fait dans l'antifascisme, il se fait vraiment en pratique quand. La partie radicale en fait veut rentrer dans un affrontement physique avec les fachos alors que on a une version moins radicalisée en tout cas en pratique qui refuse l'affrontement en fait physique et souhaite finir la contre-manifestation dans un lieu plus neutre. Quoi. Il me semble que c'est un élément essentiel aussi, c'est la question de cette radicalité physique quoi, en fait, qu'on peut retrouver dans l'antifascisme et dans l'opposition au système ma question, c'est un peu celle-ci. Dans quelle mesure cette radicalité peut permettre aussi une réappropriation en fait large du mouvement social et dans l'opposition au système, dans l'opposition au fascisme, etc. Je suis pas en train de dire que cet affrontement physique est nécessaire, mais en tout cas, dans quelle mesure cette radicalité, en tout cas au moins dans les termes. Peut permettre finalement je crois que vous l'avez montré dans vos histoires, peut permettre de réunir tout un ensemble de fractions de la gauche dans un mouvement populaire commun. Quoi.
Alors, oui, il aurait fallu que vous nommiez la scission précisément, c'est-à-dire, si je simplifie, d'un côté SOS Racisme, de l'autre côté Ralph Front. Scalp. Oui, plus le scalp, j'avais oublié le scalp. Oui. Alors, moi, j'aurais pas tendance à lire la scission de 84-85 hein, comme fondatrice. Je pense plus que la radicalité que le scalp met en avant, c'est le dernier écho d'une conception de l'antifascisme physique radical d'occupation de la rue qui avait été particulièrement illustrée par la manif, alors deux têtes, je donne la date, mais je ne suis pas sûr, la contre-manif de la Ligue communiste révolutionnaire, enfin qui n'était pas encore la Ligue d'ailleurs justement, pour casser Ordre Nouveau le 22 juin 1973, où là on était vraiment dans l'agression physique et pour... Donc on défonce deux rideaux de CRS pour aller casser en nous. Et ce mythe-là, il a perduré, je pense, dans Alfron, pour l'avoir vécu. C'était ce qui était le plus excipé. C'est-à-dire, hein, il y avait l'idée qu'on allait refaire comme Goldman, et voilà, et que c'était dans la rue physiquement qu'on allait tenir les fascistes. Alors en face, avec toute la subtilité de l'instrumentalisation mitterrandienne, d'SOS Racisme et de l'appel des 250 lancé par Jean-Christophe Cambadélis-Soult. En face, il se passe, on est dans une autre logique. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette logique, elle naît de gens qui ont tous été formés à l'extrême gauche, dans ces différentes fractions trotskistes, dans les années 70. Et elle débouche sur autre chose. Alors il s'agit de donner un contenu autre, qui ne soit pas physiquement radical, à la lutte contre le fascisme. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On peut en discuter longuement, évidemment, mais ça porte une logique démocratique beaucoup plus nettement que... et c'est un vecteur de rassemblement antifascisme type Front Populaire beaucoup plus large que Ralfron. Tout ceci, pour X raisons, mord peu, hein, finalement, on voit bien, hein, sinon le Front National n'en serait pas où il est, et les identitaires ne prétendraient pas le doubler, etc. Voilà. Et je pense que au terme de ce mouvement, ce que tente le Front de Gauche, c'est une sorte de continuation, mais en délibérément beaucoup plus politique que l'était SOS Racisme, antifasciste. Ce qui me fait dire que la radicalité, c'était plus l'écho lointain des luttes des années 60-70, hein, que l'expression d'une nouveauté. Hein, alors, ça c'est très, évidemment, les phénomènes de traduction sont, la chaîne de traduction est telle qu'on n'a pas de référence au Katangais très net dans les discours de Ralph Root, mais on a le passage par le punk, on a la médiation des Redskins ou autres, on voit que c'est cet imaginaire-là qui est mobilisé et qui à mes yeux ne mord plus du tout. Hein. Donc je pense que c'est une queue de comète. Alors toute la question est de savoir si cette disparition, cette queue de comète, elle traduit, hein, l'affaissement d'une logique de gauche ou elle n'est que la réfraction de ce qui se passe à l'extrême droite à ce moment-là. Et qui, parce qu'on joue sur d'autres terrains, plus ou moins, hein, évidemment, mais parce qu'on joue sur d'autres terrains, notamment sur d'autres cordes du politique, la radicalité physique n'a plus lieu d'être. On a la fin d'une génération, dans les années 80, la génération des camelots du roi des années 30 ou autres, hein, ils tirent tous leur révérence. Et à mon avis, ça joue aussi dans la manière dont l'antifascisme va péniblement se redéployer différemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre...
Je vais prolonger ce difficile exercice de correspondance des temps. Sur Jaurès, moi j'ai en souvenir des débats pas si lointains au sein de la gauche locale sur les figures de Guède et de Jaurès. Et j'étais toujours extrêmement frappé du fait que pour un certain nombre de militants, la figure de Guède est beaucoup plus recommandable que celle de Jaurès. Sans doute parce que la figure de Jaurès a été fortement réappropriée par le Parti socialiste et par toute cette tradition-là du socialisme démocratique. Et pourtant, vous parliez tout à l'heure de la crise des appareils traditionnels de représentation. On peut quand même avoir le sentiment que la stratégie politique définie par Guède, et sur laquelle on peut peut-être revenir en deux mots, centraliste, d'organisation de la classe ouvrière comme un monde à part, etc., a davantage marqué le XXe siècle qu'elle n'a aujourd'hui d'actualité. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, je m'interrogeais sur, au-delà des révérences que font forcément les communistes à l'héritage de Jaurès, fondateur de l'humanité, etc., etc., ce qu'il en est aujourd'hui, enfin, ce qu'il en est aussi des reprises de Jaurès. du côté des communistes ou de la gauche
Oui, ben, j'ignorais que Guel était populaire dans la gauche poitevine. C'est pas. Je découvre, ça m'intéresse.
Très populaire. Ben, j'étais frappé que, y compris des militants d'extrême gauche, ouais, se réfèrent à Guel.
Oui, oui, voilà. Ça me frappe aussi. Alors c'est frappé.
Il m'est arrivé avec Jean-Numa Ducange de me faire traiter de néo-guédiste par des gens issus de la deuxième gauche, Jacques Julliard notamment. Oui, je pense que, je pense que l'épithète fonctionne encore, mais à titre discriminant, forcément à titre appropriatif.
Peut-être expliquer aussi ce que c'est le guédisme.
Oui, voilà, ce serait difficile, oui. Mais oui, parce que Guel. Pour moi, Guel, il aurait été. Sa mémoire a été surtout portée, je dirais, dans les institutions du mouvement ouvrier et essentiellement les partis politiques. Et comme il est resté, comme il a survécu, et qu'il était vivant à Tours et qu'il est resté à SFIO, il est bien une figure du parti socialiste SFIO, même si au Parti communiste, Cachin dira toujours que c'est lui qui maintient l'héritage de Guel. Et donc, certains communistes feront référence à Guel. Mais Guel, ministre du gouvernement d'Union sacrée, il y a un portrait très féroce de Trotsky, qui est très beau d'ailleurs. Trotsky écrit très bien. Donc, Trotsky, il fait un très bel article sur Guel, très féroce, hein, Guel ministre, qui passe avec son automobile. Et il fait un très bel article sur Jaurès, un des meilleurs articles qu'on ait sur Jaurès, c'est de Trotsky, pourtant éloigné de Jaurès, mais qui le comprend. Et qu'il admire d'une certaine manière. Et puis il y a aussi un article très drôle et très méchant de Trotsky sur Longuet, que je vous recommande pour, disons, la connaissance du mouvement ouvrier français. Donc Guel, c'est plutôt l'homme du parti. Hein, une des formules de Guel sur le syndicalisme, c'est le syndicat et l'école primaire du socialisme, qui a toujours un peu vexé les milieux syndicalistes. Et les premières tentatives d'organisation fédérale syndicale, justement, échoue parce que les guédistes veulent que, sur le modèle de ce qui se passe en Allemagne ou en Autriche, le syndicalisme reconnaisse qu'il doit déboucher sur la politique et que c'est la politique qui est première. Alors, en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de... disons qu'en France, en tout cas, ce n'est pas le chemin qui a été suivi. Même à la grande époque où la CGT était sans doute suivie de très près... au siège du Parti communiste français, les dirigeants de la CGT communiste faisaient mine de dire qu'ils prenaient leurs décisions en toute indépendance. Et la courroie de transmission, à mon avis, n'a jamais pu fonctionner à 100%. Il a toujours fallu quand même prendre des précautions. Or, Guel, il est bien sur le modèle de cette social-démocratie où le parti commande aux syndicats, que Lénine reprend d'ailleurs en Russie, mais qui vraiment est très en France... est très choquante et ne peut pas être assumée jusqu'au bout. Comme en plus, donc ces choix de la guerre et du congrès de Tours font qu'il est quand même difficilement récupérable à l'extrême gauche et au Parti communiste, ça cantonne sa popularité dans le Parti socialiste traditionnel et on voit bien qu'il a un petit peu disparu de la circulation aujourd'hui. Il a réédité des brochures de Guel. Jean-Numa Ducange doit écrire une biographie de Guel parce qu'il n'en a jamais eu de vrai. Mais bon, je ne suis même pas sûr que ce sera un best-seller. Jaurès échappe à ça, parce que Jaurès justement est quelqu'un, je ne pense pas qu'il y ait le jaurécisme, mais Jaurès est quelqu'un qui est dans la politique, qui est dans l'histoire, et c'est quelqu'un, je dirais, de libre, c'est toujours un homme libre, et donc c'est quelqu'un qui réagit, je dirais, aux situations historiques. Et dans sa réaction aux situations historiques, il y a toujours, à mon avis, quelque chose qui peut nous inspirer. Alors, ça peut être différents moments, hein, mais le Jaurès donc, est celui, effectivement, qui débat aussi bien avec Guel qu'avec les syndicalistes révolutionnaires, qu'avec les libertaires. C'est un dirigeant du mouvement ouvrier qui a une pratique réelle de la démocratie. Sans doute parce qu'il vient effectivement, disons, d'une pratique d'élu républicain, mais aussi qu'il a la pratique ensuite des congrès, des manifestations, de la rue. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus moderne dans Jaurès que chez Guel. Guel, il dira aussi, j'ai appris à la classe ouvrière ses droits. Guel, il est toujours en train de vous faire la leçon. Jaurès, d'une certaine manière, il est prof, mais il est plus le prof, disons, qui vient en disant « voici les pièces du débat, voici ce que j'en pense » et qui essaie de faire réagir ses étudiants ou les autres comme dans une atmosphère de séminaire. Tandis que chez Gad, il y a toujours le côté un peu pédagogue, enfin instituteur, hein, sans dire du mal des instituteurs, qui dit « voilà ce qu'il faut apprendre et vous apprendrez la règle des étapes de multiplication pour demain et c'est comme cela ». Alors, c'est ce qui fait, à mon avis, que Jaurès est resté dans le débat. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, finalement, historiquement, Jaurès, il va plutôt être porté souvent à la droite du mouvement ouvrier. Dans les années 20-30, ceux qui se réclament de Jaurès, c'est plutôt les courants droitiers du socialisme. Marcel Déa, il mettra Jean Jaurès en sous-titre à son parti. C'est toujours pris comme quelqu'un qui a critiqué le marxisme, qui était pour aller vers... qui avait une confiance dans la République... qui regarde du côté du Parlement, qui a le sens des réformes. Donc c'est plutôt, il y a plutôt un côté, je dirais, alliance avec les radicaux, confiance en l'État. Et c'est souvent de ce côté-là qu'on regarde Jaurès. Ce qui fait qu'à un moment, Jaurès, d'ailleurs, va presque disparaître un peu des radars, je dirais, de la mémoire de la gauche. Et Jaurès est revenu, il est revenu par la gauche, je dirais, avec la crise des partis traditionnels, de la SFIO comme du Parti communiste. Et aujourd'hui, effectivement, Jaurès est remis en une de l'humanité, après avoir disparu pendant quelques décennies. Et il est, ça je peux le dire, parce qu'on le voit bien, on est beaucoup plus sollicité du côté du front de gauche, d'ailleurs, ou de l'extrême gauche. Mais même le NPA, il ne le ferait peut-être plus aujourd'hui, mais lorsque le NPA s'est constitué, la seule référence doctrinale qui a été mise dans la charte du NPA, c'est Jaurès. C'était au moment enfin, où le NPA se lançait. Bon, à mon avis, aujourd'hui... Je ne suis pas sûr qu'il ferait le même choix. Et disons que l'utilisation, enfin la reprise de Jaurès dans le front de gauche, hein, lorsque la première brochure doctrinale du parti de gauche, ça a été fait avec beaucoup de textes de Jaurès, d'ailleurs sur la classe ouvrière, ils ont été reprendre ce que je vous disais en début. Et je dirais que c'est parce que Jaurès, à mon avis, c'est à la fois à cause du contenu du socialisme jaurésien. Car Jaurès, même s'il est favorable aux réformes et à l'action parlementaire, est quelqu'un qui ne se limite pas dans un relativisme, qui pose quand même la question du devenir de la civilisation et de la société, et qui a bien donc un horizon, disons, d'une révolution socialiste, enfin, ou d'une rénovation socialiste du monde et de l'humanité qui est en lui. Donc il a un objectif final qui reste très 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 fort, et il a une pratique politique qui ne s'enfermant pas dans la partie centralisée d'autrefois, comme pouvaient le faire les guédistes ou les communistes de la grande époque, disons des années 30-60, pour faire bref, apparaît beaucoup plus moderne, y compris d'ailleurs la question aussi de son internationalisme, et pour polémiquer à l'intérieur du front de gauche, je dirais même sur les langues régionales, il apporterait peut-être un petit peu de grain à moudre à Mélenchon, il faudra que il fasse envoyer les textes de Jaurès sur les langues régionales, si on peut dire que quelqu'un est attaché à l'unité de la France, au patriotisme, à la langue française, au latin, au grec, aux humanités, en principe, c'est bien Jaurès. Or, Jaurès défend quand même le droit, surtout de la langue occitane. C'est vrai que pour des raisons politiques, on se méfie un peu du breton du côté de Jaurès. Mais même pour la Bretagne, il finit par comprendre qu'il peut y avoir un intérêt à défendre les langues régionales. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est pour cela qu'à mon avis, Jaurès, effectivement, revient très fort par la gauche actuellement, et c'est assez amusant, intéressant, d'autant qu'on voit bien qu'il y a un problème, je termine juste là-dessus, du côté socialiste, que je connais bien aussi, je connais les deux mondes, du côté socialiste, c'est très embarrassant, parce que est-ce qu'il faut prendre Jaurès au sérieux, est-ce qu'il ne faut pas le prendre au sérieux? C'est une référence, mais que faire de cette référence, hein? Disons, anecdotes personnelles pour vous montrer la difficulté. Quand Sarkozy a beaucoup utilisé Jaurès dans la dernière campagne présidentielle, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être demander une riposte du côté jaurésien. Alors, je savais que dans le Brain Trust, il y avait Payon et Bergugnou, qui connaissent tous les deux très bien Jaurès, ils pouvaient apporter des arguments. La candidate de socialiste de l'époque a eu comme seule idée de nous faire demander... Oui, ça n'a rien à voir avec Poitiers, sans doute. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça ici. Toute ma carrière est fichue, heureusement que j'ai pas déjà la retraite. Vous ne le répéterez pas. Sa seule idée a été de me demander, de me faire demander, du moins, est-ce que Jaurès a des descendants qui pourrait porter plainte pour détournement du droit moral de l'héritage jaurésien. Là, je veux dire que les bras m'en sont tombés. Je dis, heureusement, on a de la chance avec la famille Jaurès, ils sont très cool, ils ne nous posent jamais de problème pour les rééditions, ils n'interviennent jamais sur ce que les uns ou les autres ont pu dire ou publier de Jaurès. Alors, quelle idée de prendre ça sur l'angle juridique, justement, et d'aller prendre cet argument-là pour contrer Sarkozy, c'était le seul auquel pensait la candidate de l'époque, qui depuis a beaucoup approfondi la question et a beaucoup changé. L'autre chose à laquelle je pensais, oui, c'est un président de région qui, dans un colloque, disait « Oh là là, j'ai relu les textes de Jaurès de l'époque, bah dis donc, on pourrait plus se faire élire aujourd'hui si on racontait des choses pareilles, etc. » Et quand vous savez, on a une entreprise difficile, nous aussi on a besoin de subventions, ça coûte cher de sortir les œuvres de Jaurès en 17 volumes chez Fayard, eh bien, j'ai vu qu'un des brillants, de nos plus brillants intellectuels de la mouvance socialiste, qui est un des intellectuels, ancien secrétaire de la section de Rome du Parti socialiste, proche de Dominique Strauss-Kahn, etc., a dit, bon, Jaurès, c'est très bien, c'est très sympathique, mais enfin, finalement, il n'y a pas de contenu, quoi. Il n'y a pas d'idée qui demeure. Parce que sinon, si on ne prend au sérieux, ben oui, ça devient très, très ennuyeux pour la modernisation démocratique, je sais, parce qu'il dit quand même pratiquement le contraire. Donc, il y a un embarras, on voit bien du côté socialiste, entre la sympathie et faut-il le prendre au sérieux, et effectivement, un réinvestissement très fort, je dirais, du côté, au sens large, de du front de gauche et de la périphérie, quoi.
Dernière question, ou sinon, on va faire une courte pause pour embrayer dès midi 3, avec François Denor, qui est arrivé entre-temps. En tout cas, merci beaucoup. Cet exercice de mise en correspondance entre cette histoire très très riche et j'espère que les débats pourront se poursuivre parce que voilà, ils ont été pour partie découverts peut-être, mais en tout cas on a bien vu ce qu'ils pouvaient nous apporter. Normalement non, parce qu'on avait prévu une large pause repas, donc